Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h,
le meilleur de Tim Dugas.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pendant 2 heures. On va se remémorer les meilleurs moments de la semaine de Tim Dugas. On est là du lundi au jeudi entre 18h et 20h avec Christophe Dugarry et toute la Dream Team, même s'il n'y a pas de match en France. On continue de vous accompagner tous les soirs pendant 2 heures à se remémorer des moments de l'histoire du foot, à refaire des carrières également. À 19h, la carrière de Karim Benzema en détail, de ses premiers pas à Lyon à l'explosion au Real Madrid. On a détaillé tout ça lundi dans Team Dugas. On vous repropose ça tout à l'heure à 19h. D'ici là, journal moyen, l'actu également. Le PSG prêt à des représailles envers le Bayern après le dossier d'un jeune joueur qui va quitter la France pour l'Allemagne. Et puis Fort Boyard, plus fort que le foot français, on en a parlé cette semaine, ainsi que des dates de la nouvelle Ligue des Champions, du moins de la fin de la Ligue des Champions au mois d'août prochain. C'était cette semaine dans Team Dugas avec Jérôme Bretagne, Christophe Dugarry et Mohamed Bouafsi. Les infos de la journée, c'est donc l'UEFA qui a officialisé les dates de la fin de la Ligue des Champions au mois d'août. On va détailler tout ça avec Mohamed Bouafsi qui nous rejoint. Salut Mohamed.
Salut Dugas, salut Jérôme, salut, salut Jean-Louis. Salut.
Alors déjà on peut donner les dates.
Oui, les dates, on les avait données dans Team Dugas il y a quelques jours. Ce Final 8, c'était la tendance. Je me souviens même que Jérôme en avait parlé il y a plusieurs semaines de cette idée qui était de faire un Final 8 durant le confinement. Ça a été confirmé.
Jérôme, il a les instances en direct, bien sûr.
Il parle directement à l'UEFA, oui. je le sais. Par Alexander Seferin.
Ma voix compte. Ma voix compte déjà en France, imagine au niveau européen.
C'est pour ça que l'année prochaine, vous allez recruter un bon remplaçant. Vraiment, c'est un bon remplaçant qui pourra rentrer à tout moment.
Tu vois, moi, je suis gentil, je fais une passe décisive et toi, tu essayes de créer des problèmes. Je fais une belle passe décisive et toi tu crées des problèmes, tu me chauffes. Et là je le vois, il a changé. Il a kiffé quand je lui ai fait la passe décisive et là il est énervé.
Oh non.
Pas possible.
Bon, moi,
et donc en gros.
Dans les chambreurs acceptent de se faire chambrer.
Ouais, exactement. Ça. Voilà. Mais les chambreurs ont beaucoup de susceptibilité aussi parfois.
Qui est Christophe Dugarry pour dire ça, c'est un retraité.
Excellent. Oui, c'est un peu son jubilé là, t'as raison.
Ce
dans
vieux
trois points qui se prend, celui-là.
Donc ce Final 8 a été confirmé avec ses fameuses dates du 12 au 23 août. Ce Final 8 qui aura lieu à Lisbonne. Match des quarts de finale, demi-finale en un match seulement, pas de confrontation aller-retour. Et il y a toujours cette réflexion du gars sur les huitièmes de finale, où vont avoir lieu les huitièmes de finale. Il y a une réflexion autour de l'équité. Est-ce que les matchs retour doivent avoir lieu dans les villes qui devaient accueillir? On pense notamment à la Juventus Turin qui devait accueillir l'Olympique Lyonnais. L'idée au départ, c'était de jouer ces matchs à Lisbonne, comme ce fameux Final 8, mais on connaît la force, l'expérience, le lobbying de certains clubs comme la Juventus qui ont des rôles assez importants, la direction de la Juve dans l'UEFA, et donc il y a une volonté claire d'accueillir ce match retour, et d'ailleurs c'est plutôt assez justifié, ça serait logique d'accueillir ces matchs dans les villes respectives, et les matchs qui vont avoir lieu le 7 et 8 pour OL Juve, et tous les matchs qui auront lieu le 12, 13, 14, 15 pour les quarts de finale, le 18 et le 19 pour les demi-finales, et le 23 août, la finale de la Champions League, un dimanche à 21h, finale de la Ligue Europa le 21 août à 21h.
Et le tirage, c'est quand, hein?
Alors, il y a une réflexion aussi sur le tirage, c'est de faire un tirage intégral avant que les matchs aient lieu. Et il y a aussi une deuxième volonté.
Avant que les huitièmes aient
lieu. C'est important quand même.
Oui, bien sûr, c'est très important.
Imagine, je te coupe, mais imagine Lyon et Paris. Lyon se qualifie, Paris aussi, sachant qu'ils n'auront quasiment pas joué depuis 3 mois et demi, 4 mois. S'ils jouent le 15 et qu'ils se qualifient, imagine, ils n'ont que 3 ou 4 jours de repos. Quoi.
Pour la demi, le 19.
Ce n'est pas la même chose que si tu joues le 12. Hein.
Oui, bien sûr.
Ah oui, d'accord, oui.
Oui, sur le tirage, sur les dates du tirage, tu as raison.
Mais en revanche, ce que je voulais dire aussi, la nouveauté avec les années précédentes, c'est que quand tu disputeras ton huitième, tu connaîtras ton adversaire en quart.
Ah oui, oui.
Sur les huitièmes qui restent.
Oui, c'est ça. Nouveauté. Et ça, le tirage intégral, soit il aura lieu avant les huitièmes de finale retour, soit le 10 juillet. Donc, entre eux.
Non, c'est avant quoi qu'il arrive.
Oui, c'est avant quoi qu'il arrive. Le tirage, oui, c'est ça que je voulais dire. Le tirage intégral aura lieu quoi qu'il arrive avant les matchs retour. On fera pas un tirage au sort le 10 août, pardon. C'est ça que je voulais dire, le 10 août, pour savoir quelle équipe va affronter l'autre équipe en quart.
Est-ce que l'UEFA s'est exprimé sur la constitution des effectifs pour ce mois d'août? Est-ce qu'on va pouvoir rajouter des joueurs parce qu'il y a, je sais pas, des fins de contrat, des recrues?
Alors non, on ne pourra pas ajouter de joueurs recrutés durant les mois de juin, juillet, pour disputer cette Champions League en août. On reste avec les mêmes équipes. En revanche, on autorise les nouveaux joueurs à entrer dans la liste qui sont dans le club.
Ah bon.
En clair, oui. Ça veut dire, par exemple, je donne un exemple, Lucas Touzard quitte l'Olympique Lyonnais, il va rejoindre le Hertha Berlin, il ne pourra pas jouer avec l'Olympique Lyonnais. L'UEFA autorise l'Olympique Lyonnais à ajouter un joueur dans cette fameuse liste.
D'accord. Donc si dans l'effectif, il y en a un qui a pas été ajouté
jeune,
avant,
voilà, il y a un jeune qui comptait pas, eh bien on a le droit de le faire entrer dans cette liste.
Par exemple, Choupo-Moting.
Oui. Un jeune, pas une recrue.
Non, pas une recrue, dès le départ. En gros,
Choupo-Moting qui était pas dans la liste, oui. S'il est prolongé de...
Il est pas prolongé.
Oui, mais il sera pas prolongé, Choupo-Moting.
Ah bon, il est pas prolongé. Ouais. Bon.
Bah oui,
non, mais si le mec était prolongé, oui, et pas dans la liste.
Il déprime depuis, hein, d'avoir mis ça.
Oui. Bon, en tout cas, là, ça serait possible de l'ajouter. Bon, très bien. Duga, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Est-ce qu'elle t'excite, cette fin de Ligue des Champions?
Oh bah oui, oui oui, bien sûr que j'ai hâte de retrouver cette compétition. Voilà, après c'est je regardais, ça fait quoi, une dizaine de matchs maintenant que je regarde sans public, c'est quand même malgré tout assez compliqué, embêtant, mais écoute, faut finir cette saison, faut décerner les titres, faut décerner les trophées, donc voilà, c'est la moins mauvaise solution de faire ça. Donc oui, je suis quand même malgré tout content, j'ai hâte de voir le PSG surtout, et puis l'Olympique Lyonnais bien sûr.
Oui, après, le huis clos, c'est encore en suspens. Est-ce qu'il y aura du public ou pas?
Au pire, tu auras 5 000, c'est ça, non?
Oui, en fait, on aura plus que 5 000.
Plus que ça.
En tout cas, dans les stades portugais. Il va falloir aussi suivre l'évolution de la crise du coronavirus, parce qu'on parle beaucoup de ça, mais on voit que ça repart au Portugal, on voit que ça repart en Chine. Donc, l'UEFA reste quand même assez prudent sur toutes les questions de supporters, parce qu'il ne faut pas quand même entraîner des annonces qui ne pourraient pas forcément avoir lieu en août. T'imagines, du gars, Jérôme, si on disait aux supporters, bah, si vous pouvez revenir en août, c'est acté, et que la crise repart au Portugal, ben non, on ne jouera pas les matchs avec des supporters. Mais l'UEFA est quand même très optimiste sur l'idée d'avoir des supporters dans le stade, et la réflexion se portera sur des supporters des deux camps.
D'ailleurs. Jérôme, tu es impatient aussi? Ou tu te dis, bon, c'est quand même pas la même chose?
Non, j'étais déçu au départ. C'est vrai qu'il y avait plusieurs possibilités. Déçu parce que c'est vrai que, et Mohamed a bien raison de le rappeler, rien n'est encore gagné avec la crise sanitaire, même si ça va mieux, et qu'aujourd'hui, vu que ça va mieux et que tous les autres championnats ont repris, je me dis qu'au bout d'un moment, oui, c'est bien de remettre des gens dans le stade. Donc avec des gens dans le stade, ça donne autre chose quand même comme compétition, et quand tu vois le format, c'est excitant. Je m'attendais à ce qu'ils fassent un petit peu mieux. C'est vrai que en termes de, moi je m'attendais plutôt à un Final fort plutôt que Eight, mais bon, aujourd'hui ils ont décidé ça, il faut y aller.
Fort en anglais, Jérôme, c'est combien? Fort, c'est Final
4,
d'accord, et 8?
8? Ben ouais. Quoi, 8? Non,
c'est pour nos auditeurs, non, c'est pas pour nos auditeurs qui parlent anglais.
Ah oui, excuse-moi.
Oui, vous êtes aussi bon l'un que l'autre en anglais, non, mais tu vas pas trop aller le chercher non plus.
Mais non, mais quand t'es bilingue, c'est vrai que c'est pas facile, toi, tu te confonds
Moi je suis trilingue, moi.
Oui, avec espagnol, évidemment.
Non, avec les conneries que je dis,
c'est une langue apparente.
C'est un langage, oui, c'est ça.
Bon, très bien, on en reste là pour les infos, vous les avez toutes sur rmcsport.fr pour la reprise de la Ligue des Champions. Tout de suite, messieurs, on pensait qu'il y avait des stars au PSG, notamment Neymar, Mbappé, mais la vraie star, c'est le Perfoura.
Bonsoir et soyez les bienvenus à Fort Boyard.
Vous êtes devant la première épreuve, vous avez l'air d'une équipe dynamique.
Oui, tu francs, tu francs.
Perfoura, ça va?
Allez, Franck, allez!
Bonjour et bienvenue, Méco.
Eric, Méco.
Bien sûr, oui.
Celle dont on est le plus fier, c'est celle que l'on a remportée. Qui est-elle?
La coupe. Qui c'est le king?
Dans le temps de la clepsydre, je veux sectionner une corde avec une épée.
Allez, allez.
Allez, la clé se trouve au bout.
Allez, reviens.
Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort.
Voilà, petit extrait de certains anciens joueurs de foot, hein, passés par Fort Boyard. Il y a eu Edil Rami, il y a eu notre Dream Team aussi, Eric Dimeco, Franck Leboeuf, voilà.
Ouais, Eric, avant qu'il soit en chaise roulante, il l'a fait.
Ouais. Il allait faire le Perfoura, Eric.
Ouais, il paraît que Franck, il a failli se perdre.
Franck, il a failli être embauché après. Non, Fort Boyard.
Ah ouais. Ils auraient pu garder Eric, par contre, ça aurait été bien, ça.
Et toi, tu l'as jamais fait, du gars?
On m'a proposé, mais non, ça m'intéresse.
Dans tes enfants, ils ont jamais insisté en disant allez, mais, fais-le, etc.
Non, trop de travail.
Trop de travail.
Non, mais sincèrement, c'est pas un jeu qui me plaît tant que ça. Et puis, il paraît que t'enregistres pendant 4-5 heures, il fait hyper froid dans l'humidité, dans le truc là-bas et tout.
Non, maintenant, tu dors là-bas, du gars.
En plus, ouais.
Ah, qu'en plus, voilà. D'accord, ouais, ok, très bien.
Bon, c'est mort. Okay.
Ouais, voilà, t'as la réponse.
Oublié, du gars. Jérôme, tu serais chaud?
Non, mais moi aussi, on m'a proposé. Alors, au départ, c'était pas facile, le calendrier. Après, aujourd'hui, il y avait quelque chose qui pouvait se monter avec l'after.
Ouais.
Donc on en parle.
Vous allez le faire ?
On verra. Bah, je sais. Écoute, Il faut déjà que tout le monde soit OK. Et
vous êtes, ouais. vous êtes pas. Ils refont les anonymes, non? C'est connu quand même.
Non, mais moi.
Non, mais les mecs de l'after qui va regarder les mecs de l'after, c'est
bah, en fait, le truc, c'est que si moi je le fais, ça marche.
Vous voyez, ça va, mais la ganache de Gilbert et tout ça, de Daniel et tout, non, mais ça rend compte.
Moi, je regarderai.
Polo Breitner, il va faire comment, Polo Breitner, pour passer les portes? Et Fred Hermel?
Eux, on est tranquille, ils sont en prison toute la mission.
Ils peuvent pas en sortir par contre de la prison. Hein.
Fred est capable de bouffer les rats. Lui, hein.
Alors là, j'imagine certaines personnes qui nous écoutent et qui disent mais pourquoi il parle de Fort Boyard là depuis 5 minutes, qui comprennent pas. Et bien en fait, je voulais vous faire réagir à cette info de confrère du Parisien. France, hein. Voilà, c'est au-dessus du foot parce que les deux finales de coupe PSG Saint-Etienne et PSG Lyon devraient être programmées les 24 et 31 juillet prochains, à chaque fois des vendredis, pour ne pas perturber la programmation et la diffusion de Fort Boyard, programme historique du samedi soir l'été en France et gros pourvoyeur d'audience pour France 2. Alors, est-ce que ça vous choque? Est-ce que ça montre notre manque de culture sport si un programme de divertissement passe avant une finale nationale? 32-16 pour en débattre. Duga, t'es choqué?
Je m'en fiche. Déjà, un, j'en ai rien à foutre. Deux, j'en ai rien à foutre.
Si ça arrange tout le monde,
enfin que ça peut.
Ah, quoi qu'il arrive, ça n'arrange pas les supporters.
Ouais, les supporters, c'est-à-dire pourquoi?
Si tu veux faire un stade plus ou moins rempli, avec 5, 20 000 et tout, c'est plus facile de se déplacer un samedi soir qu'un vendredi soir où tu travailles.
Ouais, ok.
Donc ça, c'est quand même embêtant déjà. Les finales nationales, c'est plutôt le samedi soir d'habitude.
Oui, oui. Non, mais je pense sincèrement. Alors après, on est tous d'accord pour dire que la France n'est pas un pays de football et que c'est pas la priorité absolue. Ça, on est tous d'accord. Après, se servir de ça pour dire que c'est une preuve supplémentaire que le football passe au deuxième plan. Sincèrement, ça arrange tout le monde. On sort d'une crise. C'est aussi important pour les télés. J'en sais rien. Après, c'est Vu l'image qui a été renvoyée par notre football ces derniers mois et pendant la crise sanitaire, sincèrement, faut pas s'étonner que le football n'est plus devenu une priorité, que les gens ne courent pas après le football. Voilà, au bout d'un moment, il se passe tellement de choses qu'on condamne depuis des années et depuis au moins 4 ans dans Team Duga sur l'image du football, sur l'image des joueurs, sur ce que le football peut renvoyer, sur tout ça. Qu'à un moment ou un autre, s'il y a des gens qui se décrochent un petit peu du football. Sincèrement, faut pas trop leur en vouloir et c'est comme ça et c'est normal. Au bout d'un moment, je peux le comprendre. Au bout d'un moment, qu'on soit de moins en moins une terre de football, je peux le comprendre.
Jérôme, tu es d'accord?
Non, le constat, oui, sur le constat, du gars a raison. Après, il faut combattre ça et nous, on est là aussi pour ça.
Le président Quillot, il avait fait un plan là, je sais plus comment ça s'appelait, le plan qu'il avait fait là.
Non, mais il faut. Moi, je me refuse d'accepter ça. Alors, en effet, oui, ça peut paraître choquant pour les passionnés de football de voir que Fort Boyard passe avant une finale de coupe.
Ça fait combien d'audience pour Fort Boyard?
Vous savez, 4-5 millions, non?
Ouais, oui. C'est inférieur à la finale de Coupe de France, au moins.
Tu crois?
Oui, sur une finale de Coupe de France, quand même. En plus, qui plus est, un PSG Saint-Etienne, je pense que les gens vont regarder, quoi.
Le 31 août, Fort Boyard, le 31 août 2019, par exemple, a fait 1 962 000.
Ah oui, non, mais là,
la finale de Coupe de France PSG Rennes a fait 4,5 millions.
Oui, non, mais c'est sûr. Il n'y a pas photo. Et encore, c'est PSG Rennes.
Voilà. Contre les PSG Les Herbiers, par exemple, la précédente finale, c'était 6,4 millions.
Mais oui, non, logique. Moi, je me souviens.
Et le PSG Lyon de Jérôme a fait 15 millions à l'époque.
Mais oui, non, mais le PSG Marseille de l'époque avait fait plus de 10 millions.
Oui,
je crois.
Le PSG Marseille, oui.
Mais bon, peu importe. C'est même pas. Bien sûr que l'audience d'un match de foot fait plus. Mais moi, ce qui me dérange, c'est plus sur la Coupe de France. La Coupe de la Ligue, encore, ça ne me dérange pas parce que la Coupe de la Ligue, elle va disparaître. Et de toute façon, il y a plus d'un club qui n'avait pas envie de la jouer. Donc, c'est une finale. Les gens, à mon avis, ne s'identifient pas trop à cette Coupe de la Ligue. Mais la Coupe de France reste quelque chose de particulier ici en France. Et il faut combattre ça. Le fait que. Alors, aujourd'hui, c'est France Télé qui a les droits, donc ils font ce qu'ils veulent. Ça montre qu'à France Télé, en effet, y a des priorités. Le football n'est pas une priorité. De toute façon, ça se voit par rapport aux droits qu'ils ont. Ils n'ont pas grand-chose sur le foot. Le problème, c'est que vu qu'ils ont quand même la finale historique, la finale de la Coupe de France, ils auraient pu faire un effort pour au moins montrer que cette finale...
Mais s'ils l'avaient fait, ça aurait changé quoi dans l'absolu? C'est ça que je veux te dire, Jérôme. Quel message? Il n'y a pas de message.
Ça aurait prouvé que par rapport aux audiences, par rapport à plein de choses, que le foot est quand même important et qu'il y a une place importante. Alors, je veux bien qu'on n'est pas l'Italie, on n'est pas l'Allemagne, on n'est pas l'Angleterre, on n'est pas l'Espagne en termes de culture foot, Mais quand même.
Et... Disons que ces deux matchs, ça représente aussi symboliquement quelque chose. C'est le retour du foot en France après une période sans match.
Oui, mais donc le vendredi ou le samedi, ça change quoi? Mais ça change quoi le vendredi ou le samedi? Moi, tu me parles des supporters, je veux bien l'entendre. Ça fait des mois et des mois que les supporters, ils n'ont plus le droit d'aller, de se déplacer. On s'est jamais posé la question. Lorsqu'on a fait un débat, Jean-Louis, est-ce qu'il faut repenser la façon de supporter, la façon de soutenir ces équipes?
Voilà, mais du gars, ça devrait être la priorité de France Télé, oui, la Coupe de France.
Mon Jérôme, ça l'a jamais été. Ça l'a jamais été. Pour les supporters, mais ça fait bien longtemps que les supporters ils passent au second plan, au troisième plan. C'est les droits télé qui comptent, on le sait. Voilà. Au bout d'un moment, il faut pas faire les étonnés. C'est évident que ça allait se passer comme ça.
Alors, est-ce que sauf que c'est la première fois que ça se passe comme ça.
Ouais.
Est-ce qu'il y a des exemples à l'étranger sur lesquels on peut s'appuyer, Mohamed?
Oui, on peut s'appuyer sur le premier match qui a eu lieu en Italie il y a quelques jours. C'était un match entre la demi-finale de coupe entre la Juve et le Milan AC. Énorme carton d'audience, 9 millions de spectateurs pour la RAI.
C'était un match. C'était en clair.
Ouais, c'était en clair. Ça a été diffusé en clair. On a fait une grosse pub sur ce match et on a vu que tous les supporters étaient heureux de revoir du foot rapidement en clair à la télé et de revoir le premier match de deux des plus grands clubs italiens.
Et pourtant, il y avait Interville à la place qui était prévue et ils l'ont décalé.
Non, mais c'est pour ça qu'on peut le dire. C'est un symbole sur le fait que le football a moins de place que d'autres divertissements.
Les clubs donnent leur accord, Mohamed ?
Non, ils n'ont rien à dire. C'est le diffuseur qui le demande et qui impose sa date parce que Fort Boyard est diffusé, parce que Fort Boyard est toujours diffusé le samedi la plupart du temps, que exceptionnellement parfois il change.
Mais ça a été décalé aussi. Ça devait avoir lieu au mois de mai, donc ça a été décalé. Ils se sont adaptés. Ils ont trouvé un vendredi au lieu d'un samedi.
Il y a une petite faille de la Fédé quand même ou de la Ligue.
C'est sûr.
Un manque de force de ces deux institutions.
Tu m'as devancé. J'allais le dire en fait. Mais c'est ce qu'on a ressenti déjà. Quand le gouvernement.
Mais avec quel argument, Jean-Louis? Avec quel argument de dire on peut faire le samedi plutôt que le vendredi? Quel argument?
Parce que toutes les finales ont été jouées un samedi.
Mais Fort Boyard est tous les samedis aussi.
C'est pour ça qu'on dit ça. C'est que c'est plus pour eux, c'est plus logique de décaler la finale à la Coupe de France que de décaler Fort Boyard. Et moi, je me bats contre ça. Et Noël Le Graët et la Ligue auraient dû se battre encore plus pour trouver un accord avec France Télévisions pour vraiment que le foot ait sa place, une place très importante. Noël Le Graët s'est quand même battu pour avoir ces deux finales là depuis le déconfinement et l'arrêt des championnats. Il n'y a qu'un truc où il s'est battu, c'est les matchs pour l'équipe de France et les deux finales de coupe. Donc au bout d'un moment, il représente bien correctement le football français, sachant qu'il y a eu beaucoup de failles depuis le déconfinement et la décision du gouvernement. Et là, c'était une façon aussi peut-être un petit peu de te rattraper. Et là, ils ont laissé faire encore une fois.
Mais il a ses habitudes, il veut sa petite énigme du Perfora le samedi soir, il la veut pas.
Mais non, il regarde pas.
Ce que je veux te dire, c'est que France 2, il cajole plutôt les fans de l'émission qui est culte plutôt que un match de temps en temps que les supporters de foot ils ont pas de droit donc ils ont un match de temps en temps.
Oui, mais ils pourraient valoriser justement le droit qu'ils ont avec ces coupes nationales.
J'ai une info après le bar à Bordeaux que Duga a acheté avec Zizou je crois qu'ils ont racheté le fort. Donc c'est pour ça qu'il se bat pour le...
Ah oui, pour le maintien. Ah bah ouais.
Avant, TF1 avait changé ses dates. TF1, dans les précédentes années, à l'époque de TF1 qui diffusait du football en clair, TF1 faisait exprès de mettre ses produits de divertissement le vendredi soir pour laisser la place au foot le samedi soir.
C'est vrai.
C'était un événement. Voilà. Et ça aurait dû
être
un événement.
Alors Romain nous rejoint au 32-16. Salut Romain, bienvenue dans
le Nagas. À 16h le vendredi, c'était bien aussi.
Salut Romain.
Salut tout le monde, comment vous allez?
Bah ça va et toi, t'es scandalisé ou pas?
Pardon?
T'es scandalisé ou pas?
Ben, franchement, moi, ça me débecte depuis très longtemps de ne plus avoir des matchs de football le samedi soir sur une chaîne non payante. Aujourd'hui, en fait, on est obligé de payer pour avoir du football. Et du gars, désolé, mais moi, la Coupe de France, ça m'intéresse parce que je veux voir du football. La Coupe de Ligue, c'est pareil. Et pourquoi ce serait les vendredis, même si on va aller au stade? Comment on fait? On va aller au stade, on a des gamins, on bosse. Il faut prendre les journées, non, c'est pas possible.
Ça sera où le match? Ça sera où le match?
Stade de France.
Donc moi je fais comment? Moi j'habite à Clermont. Je vais emmener mon petit cousin voir un beau match, une belle finale. Le vendredi il faut que je prenne une demi-journée de boulot.
Tu fais quoi dans la vie?
Moi je travaille. J'ai une entreprise de bâtiment. D'accord. Donc voilà, j'ai 5 gars. Je fais comment? Je peux pas. Mmh. Et voilà, le samedi ça permet. Faut monter à Paris. Si ça finit tard. Et si, ben, alors moi, j'ai pas de club en particulier à part Clermont Foot, mais parce que je suis Clermontois.
Ah oui.
J'ai pas de club en particulier, mais si ça fait la fête avec des supporters, ça va finir tard. Donc on est obligé de dormir là-haut.
Ah bien sûr. Ouais, non, mais c'est le week-end. Voilà. C'est vrai que la Fédé,
là où je vous rejoins les gars, c'est vrai que la Fédé aurait dû protéger. Non mais c'est vrai, aurait dû protéger.
Vous avez dit qu'à la fin, il serait
d'accord. Protéger ses supporters. La Fédé, ça représente le foot amateur. Le foot amateur, au moins faciliter pour que.
Ouais, Romain, merci d'avoir reconnecté Dugas avec la réalité.
Bravo, ouais.
Merci beaucoup.
Merci Romain.
Merci pour vous. Allez.
À bientôt salut, Romain. Merci. Tu reviens quand tu veux. Alors, je signale sur Twitter à Patrick sur le hashtag RMC Live. Dugas n'a pas été engagé par France Télé. C'est pas pour ça déjà qu'il arrête RMC ou qu'il défend Fort Boyard. Voilà, je le précise.
J'adore France Télé. Je vais vous dire sincèrement ma reconversion. Je vais faire la boule dans Fort Boyard. Donc voilà. Bah. Donc c'est pour ça.
Moi, je te verrai plus en perf.
Franchement.
Orphelindra.
Oui, c'est avec les batailles dans la bouille encore là.
Moi c'est le perfouré, c'est pas le perfouré.
Oui, très bien. Merci beaucoup. Voilà donc pour l'actu et donc ce programme Fort Boyard, plus fort que le foot français. On revient dans une seconde avec le PSG prêt à des représailles face au Bayern sur le dossier Kouassi. À tout de suite.
RMC 18h-20h,
le meilleur de Team Dugas.
Dans un instant, dans le meilleur de Team Dugas, 18h45, ce sera le journal moyen. Mais tout de suite, on est revenu cette semaine sur des infos RMC Sport. Le PSG pas content du départ de Kouassi, le jeune parisien prometteur quitte le PSG pour le Bayern. Le club parisien n'a pas digéré et on en a parlé dans Team Dugas. Alors, les infos RMC Sport, donc vraiment la guerre est déclarée entre le PSG et le Bayern, Mohamed ?
En fait, c'est une guerre qui couvait, on va dire, entre les deux clubs, puisque la saison dernière, il y a deux ans, le Bayern n'avait pas apprécié les approches du PSG sur Bernat et sur Boateng, des approches qui avaient été effectuées par Antero Henrique, le précédent directeur sportif du club. Le départ de Bernat à 5 millions d'euros, il était très mal passé du côté du Bayern, surtout quand on sait qu'après, il a effectué des très belles prestations avec le PSG. On n'a pas du tout.
Lui, c'est une belle affaire, lui. À 5 millions d'euros, ce garçon-là, c'est un beaucoup.
Et on n'a pas apprécié aussi les attaques et les approches sur Jérôme Boateng, parce que Jérôme Boateng avait été voir le Bayern en leur disant qu'il voulait partir, mais finalement il n'avait pas reçu d'appel d'Antero Henrique. Thomas Tuchel lui avait dit je te veux, et finalement le PSG n'avait pas fait d'offre. Donc il y a eu un micmac autour de cette situation et on n'a pas apprécié ce micmac du côté du Bayern. Et donc il y a eu cette opportunité.
Mais il y a un autre truc aussi dans le passé. Il y a eu aussi souvent des jugements.
Les attaques de Roménigueux, du Lyonnais sur la situation du PSG. Et ça, je peux vous dire que Qatar, ça a pas du tout été apprécié. Surtout que quelques mois après ces attaques, l'un des plus gros sponsors du Bayern Munich se nomme l'aéroport de Doha au Qatar, comme par hasard sur la Manche. Donc ça, ça a pas du tout été apprécié. En revanche, il y a eu une opportunité ces dernières semaines. Eh bien, cette opportunité, c'était Tanguy Kouassi. Il a choisi de rejoindre le Bayern Munich en signant libre dans le club allemand. Jusqu'à il y a encore quelques jours, le PSG pensait qu'il allait rester à Paris. Le PSG ne savait pas l'identité du nom de son futur club. Et donc ça, ils n'ont pas du tout apprécié. La direction sportive n'a pas du tout apprécié. Leonardo aussi. Parce qu'il y a des gentleman agreements sur les joueurs jeunes qui partent libres, au moins de prévenir qu'on démarre des discussions. Et ça, on n'a pas du tout accepté à Paris. Et là, on se fixe pas de limite. On réfléchit du côté du PSG à attaquer plusieurs joueurs du Bayern, à sonder plusieurs profils. Et d'ailleurs, les discussions ont démarré clairement sur le profil de Lucas Hernandez. Le PSG ne veut pas lâcher 80 millions d'euros. Le Bayern demande 80. Les discussions ont démarré. Mais Paris a envie d'être un peu taquin et coquin et d'attaquer d'autres joueurs du Bayern s'il le faut.
Qu'est-ce qu'ils peuvent faire en représailles? Aller draguer des joueurs sans passer par le club?
Qu'est-ce
qu'on peut faire dans ces cas-là?
Il y a quelques années, ça avait fait très peur au Barça. Le Barça avait eu très très peur de Nasser Al-Khelaifi après une déclaration où Nasser Al-Khelaifi avait dit s'il m'attaque sur Marquinhos ou Verratti, j'irai sur d'autres joueurs. Quelques jours après, le Barça a rompu les négociations avec les joueurs du PSG. Là, on est dans la même situation. Il y a des joueurs qui peuvent intéresser le PSG dans l'effectif du Bayern Munich. Et le PSG a quand même quelques atouts, notamment financiers, qui peuvent intéresser certains joueurs du Bayern. Et la vie aussi, parce que vivre à Munich ou vivre à Paris, c'est pas du tout la même chose.
Dugas, tu penses que dans une bataille comme ça, sans parler de guerre vraiment, le PSG peut faire peur au Bayern ?
Oui, bien sûr. Bien sûr que c'est possible, mais ça va se régler. Ça a toujours existé. Il y a des conflits toujours pour des joueurs désirés ou pas. Voilà, ça fait partie de la vie du football. Après, il y a toujours intérêt quand même à ce que ça se passe bien. Là, tu vas te retrouver à surpayer dans des conflits comme ça. Tu vas te retrouver à surpayer des joueurs qui le mériteraient peut-être pas. Tu vas avoir des joueurs qui vont être déstabilisés. Tu rentres dans une espèce de jeu qui est pas très sain, qui est pas très agréable. Après, moi, ce qui me choque le plus dans tout ce qui s'est passé entre le Paris Saint-Germain et le Bayern, c'est plus les déclarations du Bayern quand le Paris Saint-Germain est arrivé. Ça a été même le cas aussi face à City. Voilà, ces nouveaux riches qui sont arrivés dans le football avec ces propriétaires qui sont des États, ça a posé il y a eu des déclarations très très dures de la part du Bayern et de ses dirigeants. Ça m'a beaucoup plus choqué que le fait que tu puisses t'intéresser à un joueur, qu'il fallait pas, c'était pas le bon moment, c'était pas la bonne période. Bon, ça toujours existé, c'est la vie du football. C'est la faute, à mon avis, ce genre de choses, plus à la FIFA ou à l'UEFA, qui doivent encadrer ce genre de choses-là. Ils ont essayé de le faire, mais bon, ils ferment souvent les yeux et se bouchent les oreilles pour pas entendre ce qui se passe à chaque fois en coulisses. On le sait, on le voit, la FIFA et l'UEFA, s'ils avaient voulu s'emparer, par exemple, des problèmes d'agents aussi, ils ont essayé de le faire. Ils ont vite compris que c'était pas possible, ils ont laissé tomber, ils ont tout dérégulé. Donc voilà, au bout d'un moment, c'est les instances qui doivent gérer ce genre de choses-là et empêcher que des coups bas puissent arriver. À partir du moment où ça n'intéresse pas l'UEFA et la FIFA, écoute, chacun fait ce qu'il veut, c'est la jungle. C'est malheureusement le football d'aujourd'hui.
Jérôme, t'as poussé un coup de gueule hier soir dans l'after sur le dossier Kouassi.
Ouais.
Du coup, tu comprendrais que le PSG réponde ?
Oui, bon après c'est bonne guerre, hein, comme on dit, ça fait partie de l'histoire des grands clubs. Le PSG veut pas se faire. Alors bon, ils se sont fait avoir. Moi, pour moi, c'est pas par rapport au Bayern, mais c'est plus par rapport à la réaction de Kouassi, de son entourage.
Oui, pour toi, il voulait surtout quitter le PSG.
Oui. Et après. Oui, puis la décision, même si on l'a appris là, mais la décision. Par rapport à ce que j'ai aussi entendu, elle date pas d'il y a 15 jours, quoi. Donc, la
justification sur le fait que ce soit un manque de stabilité au PSG,
elle est ridicule, cette justification.
De toute façon, j'en ai parlé hier, je vais pas m'énerver une deuxième fois parce que j'ai assez transpiré, mais elle est ridicule. Après, peu importe.
Mais quelle est la vraie raison alors ? Il voulait juste pas signer au PSG.
La vraie raison, c'est toujours pareil. C'est pour moi, c'est comment un jeune joueur qui est formé dans un club, à qui on lui a donné beaucoup de choses, qui a eu une année remarquable l'année dernière, sans contrat professionnel, jouer autant de matchs dans l'effectif du Paris Saint-Germain, ce que représente le PSG aujourd'hui en France, ce que représente le PSG aujourd'hui en Europe, c'est quand même un grand club. Et ça se respecte. Et quand le gamin, il est capable de dire non pour X raisons, peu importe, mais de partir dans un club comme le Bayern, où là, on peut pas parler de temps de jeu, on peut pas parler... Ces deux grands clubs en Europe. Alors oui, le Bayern est une institution depuis des années. Le PSG est plus récent, qui sont installés comme ça à la tête de certaines équipes, du moins à la tête de l'Europe. Mais c'est un club qui se respecte. Et je comprends pas encore comment un jeune joueur comme ça, il peut pas aimer ce club, être redevable de ce club par rapport à ce qu'il lui a amené. C'est tout. Et le retour, il y en a pas en fait. Et c'est Kouassi, c'est d'autres joueurs aussi. Il y en a d'autres qui vont partir. Ça me dérange, mais c'est le Paris Saint-Germain, c'est Marseille aussi qui a subi ça dernièrement. C'est arrêté. Là, moi, je peux pas entendre que les nouveaux agents, c'est pas la même mentalité. Le football a changé chez les jeunes. Non, moi, jamais j'accepterai ce football-là parce que c'est pas le football que j'aime. Moi, j'ai envie que les joueurs reviennent à des bases plus saines. Alors oui, il y a plus d'argent, ok, mais l'argent, il en gagnera peut-être. Et je lui souhaite beaucoup plus prochainement quand il aura fait un peu plus de preuves, mais avant tout, gardez le rêve. Quand vous étiez gamin, les gars, on rêvait d'être footballeur professionnel à n'importe quel niveau. Et ça, il faut pas l'oublier. Je pense qu'aujourd'hui, la nouvelle génération et les gens qui les entourent, parce qu'ils sont pas seuls, ils ont oublié un petit peu ça.
Et d'ailleurs, l'autre exemple aujourd'hui, tu as cité Marseille, il y a Lyon aussi, hein, qui est
Lyon, c'est pareil.
Avec Pierre Kaloulou, qui va s'engager avec Milan.
Après, c'est un dossier un peu plus compliqué, Kaloulou, parce qu'il y a ses frères qui étaient au club, qui n'ont pas réussi, ils gardent des mauvais souvenirs du club. Et encore, ça, c'est un autre dossier. Mais clairement, sur Kouassi, ça a bien fait rire le PSG. Les arguments de stabilité, quand on sait que le Bayern a eu plus d'entraîneurs sur les 10 dernières années que le PSG, ça c'est bien bien drôle. Quand on sait qu'il y a 6 joueurs à 7 joueurs qui sont devant lui, dont des internationaux champions du monde, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, ça aussi ça fait vraiment rire. Et il aurait dû assumer, et en tout cas c'est ce qu'on dit au PSG, Kouassi aurait dû assumer juste un truc, qu'il ne voulait pas signer au PSG, oui, qu'il est parti pour d'autres raisons, et c'est la vie.
Mais oui, il peut avoir ses raisons, voilà, de ne pas avoir ses raisons signer au PSG.
J'espère,
toi, tu n'es pas d'accord avec ça, Jérôme, mais il peut les avoir, et au moins
non, les affirmer. Non, mais il a des raisons, mais j'espère juste qu'à travers ces cas-là, parce que ça se répète quand même en France, qu'à un moment, on mette un règlement en place, des lois en place. Nous, on l'a connu avec Dugas, hein, parce que Dugas ne saura peut-être pas, parce que c'est plus âgé que moi, il est plus âgé que moi, mais c'est quand tu faisais 15 matchs l'année, ta dernière année de stagiaire, oui, ou aspirant, ou là, je ne sais pas, c'est espoir maintenant, tu étais obligé de signer.
Oui, pour vous, la question ne se posait même pas.
Mais tu ne te poses pas, et puis ton rêve, le rêve d'un joueur, c'est quand il est formé encore plus dans un club comme le Paris Saint-Germain, mais toutes les autres clubs, c'est pareil. Putain, le rêve, c'est de jouer en équipe première, d'être professionnel, d'avoir des étoiles.
Kouassi, il est arrivé à quel âge au Paris Saint-Germain? C'est impressionnant, en plus, le gamin.
Il est arrivé tout jeune, il est arrivé à 13 ans. Il est, c'est vrai,
normalement, la logique, son rêve absolu, c'est de jouer au Paris Saint-Germain.
Oui,
c'est
comme toi, avec au Bordeaux, Paris.
Ils ont, voilà, ils ont perdu ça. C'est ça qui est ahurissant et qui est inquiétant. Tu veux jouer pour ton club de cœur qui t'a fait vibrer. Enfin, non, il y a plus du tout ça. C'est vraiment devenu que du business.
Et c'est pour ça que moi, pour finir là-dessus, sur ce dossier, Jean-Louis et Luga, et Momo, il faut que les clubs travaillent différemment. Il faut, dans les clubs, remettre des gens qui ont ces valeurs-là et qui peuvent amener ça à des jeunes. Parce que c'est à l'âge de 13, 14 ans, 15 ans, 16 ans que tu arrives à leur mettre dans la
vie. Cette passion, bien sûr.
Et c'est trop délaissé. Et encore au PSG, j'ai plein d'exemples.
Ils l'ont fait avec Louis à un moment et Louis n'a pas réussi non plus à convaincre les jeunes.
Mais Louis, il était tout seul. Il faut peut-être encadrer, mettre plusieurs.
Mais c'est un problème. C'est pas un problème lié au PSG. Il y a eu Coman, il y a eu Zagadou, il y a eu des joueurs comme Ferland Mendy. Tous ces joueurs ont fait leur formation. Kouassi, il est né au PSG. C'est-à-dire qu'à un moment aussi, il faut aider les clubs français. Le contrat que vous avez connu, messieurs, quand vous étiez plus jeunes, il n'existe plus.
Non,
en fait, aujourd'hui, Dugas, on passe de stagiaire à stagiaire pro et on doit soumettre des contrats. Et les gamins, les Manchester United a piqué un joueur il n'y a pas si longtemps que ça au PSG. Le joueur est parti du PSG, il a signé à Sarcelles pendant 6 mois alors que son contrat a été fait à Manchester United et il est parti à Manchester United. C'est inadmissible. Ouais. Et le PSG est aussi victime de cela. Il faut aider les clubs et il faut arrêter que ces contrats pro de 3 ans où des gamins sont reconnus par les grands clubs à 16-17 ans, on leur propose des primes à signature dingue et ils vont dans les autres clubs.
Dugas.
Mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ces jeunes joueurs qui ont fait toute leur préformation dans leur club n'ont plus envie ou n'ont pas envie, et pourquoi ça ne leur fait plus rêver, soit à Bordeaux, soit à Marseille, soit à Paris, soit partout. Comment ça se fait qu'ils n'ont plus cette lumière dans les yeux de pouvoir défendre les couleurs de leur club, de les porter haut avec les supporters, avec ce qu'ils ont vécu, avec leur famille dans les tribunes, avec leurs amis dans les tribunes? C'est normalement, putain, comment ça a pu disparaître?
Il y a l'argent et il y a le confort, et moi je suis désolé, et encore je te dis, je prends des exemples précis parce que j'ai plein d'amis qui ont des jeunes qui veulent rentrer en préformation au Paris Saint-Germain et qui jouent au Paris Saint-Germain. Mais les jeunes, ils sont dans le confort, on leur donne déjà beaucoup trop à 11, 12, 13, 14 ans. Arrêtez.
Alors évidemment, notre antenne est ouverte à ces jeunes, aux conseillers de ces jeunes, aux membres de la famille de ces jeunes, pour qu'ils viennent nous expliquer les raisons. On est prêt aussi à les entendre si elles sont valables et si elles tiennent la route, mais évidemment, on leur donne la parole.
T'as un chèque pour les faire venir?
Oui, mais bon. Faut pas les payer quand même. C'est pas des champions du monde 98.
Non. Bah écoute, je pense qu'ils ont une bon exemple en fait.
Bon, merci Mohamed.
Merci
pour
messieurs.
Ces infos. Merci. Voilà, on verra pendant le mercato si le PSG et le Bayern se déclarent vraiment la guerre sur des futurs dossiers. On revient dans une seconde dans le meilleur de Team Dugas avec le journal moyen.
RMC 18h-20h.
Le meilleur de Team Dugas.
La carrière de Karim Benzema, on la refait en détail juste après les infos de 19h. On vous propose ça, on en a parlé lundi dans Team Dugas. On vous rediffuse ce moment tout à l'heure après les infos. Tout de suite, c'est Journal Moyen dans Team Dugas.
À la une du Journal Moyen de Team Dugas, aujourd'hui sur RMC, le Bayern fait la fête, c'est normal. Quelle est la meilleure excuse quand on arrive en retard à l'entraînement? Là, c'est j'ai un champion du monde dans le Journal Moyen. Et puis, un magnifique question pour aujourd'hui, Jean-Louis, tu vas te régaler, 4 questions.
D'accord.
Année 90. Okay. Je sais pas, peut-être un peu trop jeune, Jean-Louis. On va vérifier tes connaissances. Vous écoutez RMC, c'est le 339e journal moyen de l'histoire de Team Dugas.
En direct de la rédaction d'RMC Sport.
C'est le journal moyen de Team Dugas.
Adrien Aigouin.
Alors vous les professionnels, Jérôme Dugas, vous allez pouvoir peut-être me répondre. Le Bayern Munich est champion d'Allemagne. 30e titre de champion pour ce club mythique du foot européen. Le club publie une vidéo sur Instagram de la joie des joueurs dans le vestiaire qui célèbre ce titre. Et ben c'est partout en Europe. Alors on est en Allemagne. Moi je me dis, ils vont chanter on est champion en allemand.
Oui,
pourquoi ouais. Ils chantent ça tout le temps. Campeone. Pourquoi? C'est le cas dans tous les clubs du monde, en Angleterre, en France, même ça arrive. Pourquoi Campeone? Ça se donne un petit côté latin, je sais pas, c'est curieux.
J'en ai aucune idée.
Ouais. C'est à la mode en ce moment.
Je sais pas comment tu dis champion en allemand.
Campeone. J'ai regardé, j'ai vérifié.
Campeone.
Je sais pas.
C'est plus musical, ouais, non?
Si vous avez la réponse, vous êtes fan de foot,
c'est
vous
plus
savez.
Militaire, quoi, tu vois. C'est dur, bah, c'est à l'image des Allemands.
Campeone. Allez, sans transition, direction.
C'est une belle langue, hein.
Ouais.
Jean-Louis, nous sommes au Chili.
Ah oui, bien sûr.
Magnifique histoire donc au Chili. Vous avez tous des coéquipiers qui ont inventé des excuses après un retard à l'entraînement, avant un match. Je tiens peut-être la meilleure excuse de l'histoire de l'humanité. Il s'appelle Guillermo Marino. Il jouait en 2011-2012 à l'Universidad de Chile.
Mais le est dingue.
Ah, dingue, j'ai pris des cours. C'est son ancien coéquipier Gustavo Lorenzetti, un Argentin, qui raconte ça sur sa chaîne YouTube. Marino arrive en retard à l'entraînement et il dit au coach, à ses coéquipiers, il raconte. Donc, il a commencé à expliquer qu'il s'était soudainement perdu et qu'il avait été...
Non.
Non mais sérieux, non, c'est très sérieux. Enlevé par des extraterrestres. Il a dit qu'on lui avait pris son âme, qu'elle avait été analysée et qu'il s'était occupé de lui pendant tout le voyage. Il a raconté quelque chose comme ça. Ça se souvient son coéquipier Lorenzetti qui poursuit. Il dit honnêtement, moi-même, je crois aux extraterrestres. Il a donné une excellente explication et nous devions le croire. Donc c'est sur son excuse. Il arrivait à l'entraînement en retard. Il dit j'ai été enlevé par des extraterrestres. Il dit j'y ai cru par la façon dont il nous l'a raconté. Si vous le connaissez, vous savez que c'est une personne sérieuse. Il n'est pas du genre à être en retard quelque part. Il est très respectueux. Nous l'avons cru.
Bah, de toute façon, dans ces cas-là, il faut être convaincant. Peu importe.
Non, mais ouais. Est-ce que, je sais pas, déjà, il faut croire aux extraterrestres.
Après, les plus gros mensonges, c'est ceux qui passent le mieux, hein, donc
il vaut
mieux envoyer la sauce.
C'est dingue comme histoire, ça fait parler là-bas, c'est curieux.
Ça me fait le même effet quand Jérôme parle de sa carrière, moi. Il le fait avec tellement de conviction.
Tu finis par y croire. Tu finis par y croire.
Voilà. Ouais, mais sauf que là, je peux pas inventer parce qu'il y a des traces.
Oui.
Non, bien sûr.
Là, extraterrestre.
Oui, c'est compliqué.
C'est voilà. Son entraîneur. Alors, l'histoire ne dit pas. Il a pas raconté la réaction de Sampaoli, c'était l'entraîneur de
le match après. Pendant combien de temps il a pas rejoué le mec, par contre.
Voilà. Il a pas raconté. Il y a peut-être une amende spéciale extraterrestre.
Vous avez pas une histoire de retard à raconter, non?
Bah, Jérôme, t'avais une technique toi quand t'étais en retard, non?
Ah oui, non. Mais bon, on a tous eu. Bah, c'était 3-4 minutes. Ouais. Donc tu rentres. Moi au camp des loges j'avais la porte de chez le docteur. Donc s'il me cherchait, je disais mais non, mais je suis allé voir le docteur.
Parce que
j'ai un petit problème là, j'ai mal à.
Mais ça va aller, je m'entraînais.
On n'allait pas contaminer les.
Bah, voilà.
Et on n'allait pas demander au docteur. Hein, non, personne n'allait vérifier avec le docteur.
Ça finissait avec un maillot de temps en temps.
Quelques places.
Ça finissait avec une victoire. Moi, il savait très bien qu'il fallait que je sois bien pour qu'on gagne parce qu'on prenait les primes de match. Okay. Donc voilà, je le récompensais en fin de semaine.
Sans transition. Question pour Jean-Louis, c'est à toi. Alors là. Que se passait-il il y a 26 ans? Il y a pile 26 ans, moment important pour le
26,
foot.
26, Coupe du Monde 94.
Le 17 juin 1994, ouverture de la Coupe du Monde de foot aux États-Unis. La première et la seule aux States. Question pour spéciale Coupe du Monde 94.
Ah,
du gâteau. Du gâteau, tu aurais pu la jouer si tu avais été en équipe de France tout minot. Tu aurais pu, hein, non? Ça aurait pu.
Ouais, c'était Gérard Rouillet.
La France était qualifiée déjà.
Question pour exceptionnelle, c'est la Coupe du Monde. Un week-end à gagner à Bordeaux chez Christophe Dugarry pour celui qui gagne.
Bon,
Christophe sera un magnifique cadeau. Hein, tu seras au week-end. Qui marque le premier but sur cette Coupe du Monde?
Ah, Milan?
Non.
Romario.
Souvenez-vous, à l'époque,
Bebeto.
C'est le champion.
Non, c'est le champion du monde.
C'est
l'Allemagne
qui ouvrait. Ouais. 1-0 face à la Bolivie. C'est pas le match qui a marqué l'histoire de la Coupe du Monde. Hein.
C'est l'Allemagne.
Klinsmann.
Rossi. Jürgen Klinsmann. Ah, tu te rapproches du week-end chez Christophe Dugarry, Jérôme. Attention. Moi, alors attention là.
On va se régaler.
T'avais quel âge, Jean-Louis?
Moi, j'avais 7 ans.
Donc tu regardes un peu la télé?
Ouais, pas trop, j'avais pas la télé.
Sur la télévision française, quel duo de commentateurs commente la finale Brésil-Italie?
Roustan Cantona.
Eh ben Roustan Cantona, Didier Roustan Cantona, un duo assez inédit, un duo qui était très bon, un peu dans l'originalité, ils étaient assez libres. Si vous vous souvenez pas, on écoute, c'était Italie-Espagne, le quart de finale, 2-1 pour l'Italie, le but de la victoire de Roberto Baggio.
Baggio, le but d'arrêt d'Akaïzi,
vélocité. Baggio, oh, il repousse son ballon, mais il est. But de Roberto Baggio.
Écoutez le gardien.
Zubizarreta lui aussi a hésité à sortir. Zubizarreta a tardé à sortir. Il aurait dû le sentir. Il aurait été là.
Et oui, il disait les choses tantôt. Il n'avait pas peur.
Un but magnifique.
Roustan Canto, France 2 avait la plupart des matchs à l'époque, il y a quelques matchs sur TF1. Ils étaient assez libres, ils déconnaient, c'était pas mal. Moi j'ai un bon souvenir de ce duo. Alors attention, question plus compliquée. Une fois la finale gagnée sur la pelouse, le Brésilien Dunga soulève la coupe, mais après il déploie une banderole. Qu'est-ce qui était écrit sur cette banderole? Jean-Louis, non, pas, Jean-Louis, pas, Google, c'est en rapport avec une
Roten remplace du gars.
Non. Et je vais vous la lire. Ça va vous rappeler un souvenir. Ça a ému tout le peuple brésilien et tous les amoureux de sport au monde. Sénat.
Merci Gérard Rouillet.
Sénat. Nous accélérons ensemble. Le quatrième est à nous. Hommage à Sénat, qui est mort le 1er mai. Le pilote de Formule 1 qui visait un quatrième titre de champion du monde de Formule 1. Et puis enfin, facile pour terminer, c'est de la rapidité. Qui est élu meilleur joueur de la compétition?
Romario.
Romario, bien joué. Jean-Louis Tour, tu as gagné ton week-end chez Christophe Dugarry à Bordeaux.
Parfait. Voilà. Bravo.
Tu accueilles Jean-Louis Dugas? C'est bon chez toi?
Avec plaisir.
Est-ce que tu as une petite chance?
Il va falloir que j'en remplisse le frigo par contre.
Non, je suis au régime.
Tu peux faire des écarts dans un régime. Tu peux faire un écart.
Moi, je suis un militaire.
Mais pourquoi ça se voit pas, toi, quand t'es au régime? Ça fait 3 semaines que tu es au régime.
Non, ça se voit. Ça se voit sur le torse.
Ah, merci.
Là, t'as perdu le torse.
Ça se voit, c'est évident.
Il a toujours des seins.
C'est sûr. Ah, c'est des pecs.
Non,
c'est des pectoraux. Ça se voit pas bien.
Peut-être qu'un jour, ça sera des pecs.
Mais là, pour la
c'est des pectignos. Des pectignos.
Merci, Adrien.
À demain.
À demain pour le journal moyen. Merci, Jérôme.
Merci, Jérôme. Salut, Adrien.
Voilà pour ce journal moyen. On vient après les infos de 19h pour se rappeler la carrière de Karim Benzema, de son éclosion à Lyon, de son intégration compliquée au Real, à la consécration, les titres en Ligue des Champions. On s'est remémoré toute sa carrière dans Team Dugal lundi. On vous propose les meilleurs moments après les infos.
RMC 18h-20h, le meilleur de Team Dugal. RMC 18h-20h, le meilleur de Team Dugal.
Une heure encore à passer ensemble avant par ici la sortie sur RMC. C'est le meilleur de Team Dugas. On est en direct toute la semaine, du lundi au jeudi, entre 18h et 20h, à commenter l'actu du foot, à se remémorer des matchs historiques dans l'histoire du foot et aussi à refaire des carrières. On a fait les carrières de plusieurs internationaux français et lundi, on a refait la carrière de Karim Benzema de Lyon à Madrid, les différentes péripéties dans sa carrière. Emmanuel Petit, Christophe Dugarry, Gilbert Bribois, Julien Cazard et Fred Hermel étaient là pour en parler. Juste avant Benzema, on est revenu sur les difficultés d'Antoine Griezmann au Barça. Antoine Griezmann, puisque donc lors de la victoire à Majorque du Barça 4-0 ce week-end, la Liga était de retour, eh bien vous avez peut-être vu passer cette photo d'un Antoine Griezmann remplacé sur le banc, déprimé sur la photo qui a circulé. Il a été titulaire sur cette rencontre, il a joué 54 minutes. Pas du grand Antoine Griezmann, Fred.
Non, pas du grand Antoine Griezmann, mais vraiment, j'ai eu cette phrase sur les heures de casting ce week-end, parce que dans Rotten Regal, vendredi, rappelle-toi, j'étais optimiste. Tu te rappelles? Parce que j'avais lu les déclarations de Griezmann qui disait qu'il avait pu se reposer, qu'il était bien dans son corps, bien dans sa tête. Je vois le 11, Griezmann et les titulaires, c'est bien. Je vois la disposition tactique, Griezmann est en pointe. Je me dis, ouf, ça y est, il est plus sur un côté gauche, écarté, etc. Bon, je vois le match, je vois que Messi ne cherche toujours pas, qu'il préfère chercher Braithwaite de l'autre côté. Et puis surtout,
ah oui, carrément, on en est là.
C'est pour ça qu'il déprime sur le banc de touche quand tu te fais piquer ta place par Braithwaite.
C'est-à-dire que le premier de sortie, c'est pas Braithwaite, c'est Griezmann. Et surtout, tu dis, il est en pointe. Mais non, en fait, il était vedette américaine, comme dans le musical. C'est-à-dire que Antoine Griezmann n'a fait que préparer le retour de Luis Suarez, qui l'a remplacé à la 56e minute. Et le schéma tactique en tout cas le positionnement de Quique Setién, c'était simplement de préparer l'arrivée de Suarez, qui revient de blessure et qui ne pouvait pas jouer une heure et demie. Et je crois que Griezmann l'a compris. Donc moi, ça m'a déprimé, pas autant que lui, parce que je vous préviens, je l'ai vu de nombreuses fois faire la tronche, Griezmann. Mais la tête qu'il a sur la photo qu'on a vue partout, c'est pas de la colère, c'est un peu du désespoir.
Mais attends, juste l'histoire de Suarez. En quoi il a préparé le retour de Suarez?
Il l'a jamais mis en concurrence.
Non, mais là, sur ce coup-là, il était titulaire et puis il l'a remplacé. Enfin, je veux dire.
Mais non, mais parce que Griezmann, normalement, il joue à gauche. Sauf que là, il met Braithwaite à gauche, histoire de préparer le schéma. Et après, t'as Suarez qui arrive. Voilà. Et, là, et c'est simplement que vous regardez Messi. La différence de traitement entre Griezmann et Suarez au même poste, Griezmann a joué en pointe, mais c'est le jour et la nuit, quoi. C'est une autre galaxie, quoi. Sincèrement, là, et moi, je vous dis, là, ma réaction, elle est claire, c'est que, voilà, c'est après tout ce qui s'est passé, alors que vous avez Griezmann qui supposait être en pleine forme, voir comment il est traité, bon, bah, faut qu'il se trouve autre chose, maintenant, c'est fini, quoi. Voilà, c'est la nouvelle normalité de Griezmann, c'est
encore une normalité. Fred, moi je pense que si on parle d'un champion du monde qui a une erreur de casting au Barça, je crois qu'on a un intervenant qui peut absolument parler de ce cas. Il est avec nous d'ailleurs. Voilà. Bonjour Christophe.
Non mais j'étais pas champion du monde à l'époque.
Je sais, mais tu connais les deux cas. Tu connais les champions du monde.
Manu, tu l'étais toi, Manu.
En revanche, ouais, mais je l'étais moi. Oui,
voilà Manu. Alors on a deux cas. Oui.
Non mais il voulait juste se foutre de ma gueule. Non mais c'est tout. Non,
mais c'est vrai qu'on a quand même.
Et toi, en bon copain, tu balances le truc à Manu du coup.
Ouais. Mais c'est vrai.
En plus, Manu, il a deuxième point commun, c'est que lui aussi il avait le goût pour les coiffures à crinière, oui. un petit peu flamboyante, quoi. Donc c'est vrai que Manu, c'est un peu toi.
Bon alors qu'est-ce que t'en penses, Manu, de la situation
Griezmann?
Oui.
Mais moi, dès le départ, je trouve que c'était une erreur de casting, parce que à partir du moment où il quitte l'Atlético Madrid dans les conditions qu'il a faites, on se rappelle tous de la communication qu'il a entouré. Je viens, je viens pas. Et après, il fait la cour à Messi en permanence, à qui veut l'entendre, avec le maté et compagnie. Donc il a prêté allégeance en arrivant, sachant qu'il arrivait en terrain miné, qu'il n'avait pas conquis le vestiaire. Et encore aujourd'hui, c'est pas le cas du tout. Donc, sans parler purement sportif de son positionnement sur le terrain, où on sent qu'il est orphelin de ce qui se passait à l'Atlético, ou même son positionnement avec l'équipe de France. Donc, sur les deux situations, c'est un échec pour moi. Donc, il se morfond. J'ai l'impression qu'il perd progressivement sa joie de vivre sur le terrain, sa volonté justement de marquer l'histoire avec le Barça. Et je pense qu'il a dû se faire une raison, en se disant que quoi qu'il arrive, j'arriverai jamais à forcer le destin, parce que on me donne pas les armes pour le faire. Donc quelque part, je me dis que tant que tu es pas dans les petits souliers de Messi, bah tu rames à contre-courant.
Dans ses petits papiers, parce que si t'es dans ses petits souliers, lui il en a plus du coup.
Ouais, non, tu vois, pour te dire, c'est que là je regardais une stat par rapport au dernier match qui m'a quand même interpellé, quoi. Je veux dire, jusqu'à son remplacement qui était, je crois, à la 57e ou 58e minute. 56e minute, il avait touché à peine 25 ballons, alors que Braithwaite, on a touché davantage, que c'est le plus petit quota, même s'il est sorti à l'heure de jeu. Mais ouais, quelque part,
dans ces cas-là, c'est la faute à qui? Non, mais de vous dire, est-ce que c'est la faute au partenaire qui le cherche pas, ou à lui qui?
Pour moi, c'est une erreur de casting, dans la mesure où ça n'a pas été clairement défini son positionnement sur le terrain. Je vais te donner une réponse. Non, quand t'es très fort, non. Quand tu joues au Barça, en sachant comment joue le Barça, quand tu joues sur les côtés, il faut avoir la capacité à éliminer en un contre un sur ton côté et à prendre la percussion. Chose que il n'a pas ces qualités-là. Il a d'autres qualités incroyables, mais il n'a pas celle-ci. Donc si tu le mets sur le côté en sachant qu'il te faut ces qualités-là au Barça, parce que c'est comme ça qu'ils jouent, ils sont collés à la ligne, et tu fais la différence. C'est pour ça que Neymar était adoré également des sociaux. Mais si tu le mets sur ce côté-là, en sachant qu'il a des qualités de finisseur dans les 20 derniers mètres, oui. Moi, je peux pas comprendre ce choix sportif. Alors que derrière, tu peux mettre par-dessus tout ce qui se passe depuis son arrivée, toute la communication, les problèmes de vestiaire et compagnie. Aujourd'hui, on a un Griezmann qui se morfond et qui est en train de perdre son football. Alors, l'échappatoire, c'est l'équipe de France, mais ça va durer combien de temps?
Oui, oui. Ouais. Alors, Dugas.
Moi, je me suis trompé, clairement. Je me suis trompé parce que moi, j'étais persuadé que les grands joueurs comme Griezmann, il en fait partie, étaient capables de s'adapter à n'importe quel football, et même au Barça. Après, j'ai certainement sous-estimé l'identité footballistique du Barça, qui est aujourd'hui représentée parce que le jeu a quand même, malgré tout, un petit peu évolué, même s'il y a une identité toujours très très forte de cette façon de jouer au football, mais surtout caractérisée par Messi. Donc soit tu t'adaptes au jeu qui est particulier, soit tu t'adaptes à Messi. Il a réussi à s'adapter ni à l'un ni à l'autre. Je pensais pas que le système, enfin la façon de jouer du Barça était tellement imposée qu'il arrivera à faire autre chose, qu'il arrivera à faire différemment. Et pour ça, il aurait peut-être pu y arriver. mais je pense avec un autre style d'entraîneur. C'est-à-dire que là, il te faut un entraîneur suffisamment fort, suffisamment solide, pour adapter l'arrivée aussi de Griezmann. C'est-à-dire faire évoluer le jeu du Barça, mais faire évoluer le jeu du Barça tant qu'il y aura Messi, c'est tout bonnement impossible. Donc il aurait fallu un entraîneur suffisamment charismatique, suffisamment fort, peut-être Guardiola aurait réussi, ou un autre, j'en sais rien, pour pouvoir incorporer Messi. C'était pas le cas avec Valverde, parce que je pense qu'il n'avait pas les épaules ni le charisme suffisant pour modifier les choses et pour modifier la façon de jouer le système. Il a peut-être un petit peu essayé, mais ça s'est vite arrêté, puisque c'est Messi qui décide.
Parce que Etienne, il a des épaules, tu trouves? Etienne, il a les épaules de serpent.
Il en a aucune. Alors, il a essayé courageusement et gentiment de défendre Griezmann après sa performance, qui a été, c'est vrai, effectivement, hier, face au week-end, ratée.
On va simplement rappeler, il a dit que Griezmann est indispensable, qu'il est tout le temps titulaire et tout ça. Enfin, bref, il n'y a pas de problème, quoi.
Mais j'ai sous-estimé cette identité footballistique qui est tellement forte qu'au jour d'aujourd'hui, c'est certainement une erreur de casting, or au-delà de la communication qui a été mauvaise. Sportivement, je pense que c'est très difficile. Griezmann n'est pas le premier grand joueur à être passé par le Barça qui n'a pas réussi à s'imposer, à se faire à ce style de jeu très 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 particulier. C'est toujours difficile de l'expliquer quand on est de l'extérieur, mais c'est un style de jeu qui demande à repenser ton football, à repenser ta façon de voir le foot, ta façon de te déplacer sur le terrain. Donc ça demande beaucoup de choses, beaucoup d'efforts, et parfois c'est pas une erreur, c'est pas une tare que de ne pas s'y adapter. Il y a des joueurs qui ont les caractéristiques pour, et il y en a d'autres qui ne les ont pas. Et peut-être que Griezmann, malgré tout son talent, malgré tout son potentiel, il faudra qu'il aille voir ailleurs, et je suis persuadé qu'il fera d'excellentes choses dans un autre football. Et après, il faut avoir aussi le caractère, peut-être, de se dire, mais je me suis trompé. Est-ce que Antoine sera capable d'accepter cette erreur et de reconnaître son erreur? C'est parfois aussi difficile quand t'as un ego, il a tout fait, enfin, ça a été une histoire incroyable. Le Barça, pas le Barça, j'y vais pas, ça peut être un rêve de gosse d'y aller. Il va falloir accepter de s'être trompé, c'est pas toujours facile.
Duga, est-ce que tu penses pas que si c'est une erreur de casting, c'est parce que c'est le directeur de casting, on lui a pas demandé son avis? Parce que le directeur de casting, c'est pas l'entraîneur au Barça.
Mais c'est Valverde qui a tout fait pour le faire venir, apparemment.
Le directeur de casting, c'est Messi. C'est que s'il veut pas de toi, tu sais, ça me fait penser à Jordan avec les Bulls. À chaque fois qu'un mec était imposé, c'était mort. Tu peux rien faire contre ça.
Alors, Manu, tu voulais rajouter un truc?
Non, mais moi, je voulais l'avis de Duc. Justement, quand on voit dans le football moderne aujourd'hui, dans les couloirs, on veut toujours des joueurs ultra rapides, capables de faire la différence balle au pied. Contraint, il a pas ces qualités là, Grisou. Donc
et surtout, ça faisait très longtemps qu'il jouait plus dans un couloir.
Atletico jouait soit en deuxième attaquant, soit en pointe.
Tu le sais, Manu, aujourd'hui, comment fonctionne le Barça? Tu occupes des zones, c'est un jeu très tactique. Les joueurs de couloir doivent coller la ligne, la ligne, et après faire des duels, travailler un petit peu avec ton latéral qui est souvent très rapide, qui prend le couloir avec toi, combiner. Mais c'est vrai que cette capacité de Griezmann qu'il a à se déplacer, à faire beaucoup d'efforts, à aller sur tout le front de l'attaque, ça convient pas.
Gilbert.
Moi, pour aller plus loin, du coup, parce que je suis à peu près d'accord avec tout ce que vous dites, c'est quelle est la porte de sortie? Parce que Madame Griezmann veut rester en Espagne.
Oui, mais Madame Griezmann, c'est pas elle qui est sur le terrain.
Gilbert, pardonne-moi.
Il va pas se faire prêter à l'OM.
Elle est pas contente à Barcelone.
Oui, Fred, elle est pas contente à Barcelone.
Quand elle vient à Madrid, elle se plaint de pas avoir de vie sociale à Barcelone, qu'ils n'ont pas d'amis là-bas.
Moi, j'en vois un, parce que le grand désir. Oui, exactement. Le désir de Neymar de retourner au Barça, ça peut être.
Je veux dire, tu fais un échange, toi.
Un échange avec une somme d'argent, parce que je pense que Neymar est valorisé beaucoup plus cher que Griezmann à l'heure actuelle, même malgré la crise du Covid-19. Donc, on sait la volonté de Neymar de retourner au Barça. Je me dis que là, Cavani n'a pas été reconduit. Je me dis, il y a peut-être une possibilité pour être en concurrence.
Après, quelle est la valeur,
sortir de la situation.
Ouais, mais aujourd'hui, c'est quoi la valeur de Griezmann? Quel club aujourd'hui va être
cadré? Oh, quand même.
Ah, il a de la qualité.
Moi j'aime beaucoup.
Il peut se faire prêter aussi.
Ah, il est remplaçant de Braithwaite, c'est vrai que ça fait moins cher.
Moi j'aime beaucoup, mais il avait une façon de jouer. Il avait une façon de jouer très particulière du côté de l'Atlético. Là, le Barça, il a du mal un petit peu à s'imposer. Est-ce que justement.
T'as un doute pour ton niveau dans des.
Non, mais pas moi, mais nous on est français. Nous on a un œil particulier avec lui. C'est un garçon qui a marqué beaucoup de buts. C'est quand même un joueur d'une redoutable efficacité, qui est un vrai joueur de football. Je sais pas. Je me demande aujourd'hui, est-ce que quel club, est-ce que le Paris Saint-Germain a envie d'avoir un joueur comme Griezmann avec le style Griezmann qui est aussi un style particulier. Hein.
Alors on va finir là-dessus, Fred. Vas-y.
Non mais la question de Gilbert est légitime. C'est quoi la solution? Mais là, franchement, vous dites oui, Neymar, le Barça rajouterait un peu d'argent et tout ça. Mais enfin, le Barça n'a pas d'argent pour. Tu vois, moi je crois sincèrement
à Neymar. Neymar, c'est 36 millions par an, ils vont jamais donner ça. Ils n'ont pas l'argent pour donner au Barça.
Ouais, vous oubliez un truc quand même, les gars, c'est que Messi, il n'est pas éternel, et qu'il a 32 ans, et qu'à un moment donné, il va falloir remplacer par une des plus grosses pointures du foot mondial. Mais
ça, il faut avoir des coronets.
Mais Messi, c'est Jeanne Calment. Ça fait 50 ans qu'on dit qu'il va mourir.
Oui, mais il faut avoir des dirigeants suffisamment costauds pour dire à un moment ou un autre à Messi, bah, écoute, t'es bien gentil, mais tu vas jouer peut-être un peu moins, il faut préparer l'avenir, et si, et là. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. C'est Messi qui décidera d'arrêter, Manu.
Alors. Maintenant qu'on a parlé d'Antoine Griezmann, on va refaire ensemble la carrière de Karim Benzema. Alors Benzema, ça fait partie des joueurs sur lesquels on voulait s'arrêter hein, pendant cette période. On a pris le temps de s'attarder sur certaines carrières. Donc sur Benzema, Fred Hermel le connaît par cœur depuis son arrivée bien sûr au Real.
11 ans,
voilà. Manu Dugas, vous l'avez vu jouer. Et Gilbert, tu l'as commenté puisque nous avons avec nous Gilbert Bribois, l'ancien commentateur des Bleus.
Et attention, le contre français qui peut être reparti avec Gourou. Gourou qui donne à Wilson, fait donner à Zidane. Il est pas en jeu, Zizou. Il va partir se faire avec Casillas. Zidane face à Casillas. Zidane qui dribble le fouillage. Zidane qui frappe.
But. J'ai des frissons. Ouais, moi aussi. Ah, il est bon, hein, Manuel, tu vois.
Ah, ça, c'est de l'émotion. Ah, ça, c'est.
Vous voulez relancer la carrière,
le but, là.
Mais qu'est-ce que. Moi, ce qui est bien, c'est qu'avec Gilbert, c'est à l'ancienne. On sait qu'il y a but. Bah, il le dit.
Mais alors, à la radio, il faut expliquer les choses.
Oh oui.
Voilà.
Bon, alors Benzema, donc
Julia,
on y va.
Non, des footeurs de merde.
Vous vous souvenez tous de son éclosion à Antoine Griezmann, à Karim Benzema à Lyon, bien sûr, très jeune. Hein. Benzema qui arrive dans cette équipe avec cette fameuse anecdote avec, je me demande si c'est Juninho qui la raconte en premier ou en gros il est dans la causerie où il doit se présenter devant tous les cadres lyonnais à l'époque et il dit bah moi je suis juste celui qui va prendre votre place. Histoire de montrer son ambition et sa confiance en lui à l'époque dans le vestiaire lyonnais. Quelque chose, cette confiance en lui qui parfois peut être un peu mal perçue. En tout cas, Dugas, tu te souviens de ce joueur des premières fois où tu l'as vu très jeune à Lyon?
Ah, c'était impressionnant. C'était impressionnant. J'avais rarement vu un attaquant être aussi footballeur, aussi fin techniquement, aussi intelligent dans ses déplacements, aussi disponible. C'était encore une époque, à mon avis, alors où on demandait aux avant-centres d'être avant tout des finisseurs, avec une palette. Il a une palette tellement large, il peut jouer numéro 10, il peut jouer à gauche, il a d'ailleurs joué sur le côté dans un couloir.
Oui. Bon, au début, il jouait à gauche et Fred jouait avant-centre.
Ouais. Exactement. Moi, je trouve que c'est un garçon, un joueur, exceptionnel. Sincèrement, il me fait penser un peu à Marco Van Basten, tu sais, dans cette capacité qu'avait Marco Van Basten aussi à décrocher, à faire jouer les autres, cette qualité technique. Il y a très très peu de joueurs avec une palette aussi large. Et ce garçon a en plus montré qu'il avait un mental pour résister à tout ce qu'il a résisté pendant 11 ans au Real Madrid. Oui. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. C'est un parcours sincèrement exceptionnel. Alors il y aura peut-être des regrets, il y aura sûrement des regrets par rapport à l'équipe de France et tout ce qui s'est passé. Mais quel joueur de football! Mais ce garçon, quand il touche le ballon, mais il se passe quelque chose. Il trouve des angles de passe, il trouve des remises. C'est un joueur, pour moi, hors norme. Dans mes 30 ans passés ou 40 ans passés dans le football, sincèrement, j'ai rarement vu des joueurs de ballon aussi, des attaquants aussi justes techniquement, aussi intéressants avec une palette aussi large.
Alors, la première saison à Lyon, c'est donc 2005-2006. Première sélection à 20 ans en 2007, donc, avec l'équipe de France. D'ailleurs, premier but également à cette époque-là, face à l'Autriche. Premier but de Benzema en sélection. Alors, l'histoire avec l'équipe de France, on va y revenir bien sûr, mais alors finalement, il va quand même très tôt au Real, même s'il a deux saisons pleines, disons, avec Lyon dans les jambes. L'une d'elles où notamment il va éblouir tout le monde face à Manchester United en huitième de finale de Ligue des Champions. D'ailleurs, on y reviendra aussi en chiffres, mais il a une relation d'amour avec la Ligue des Champions assez incroyable. incroyable. Et donc Fred, il arrive en 2009 à Madrid. Et bon, on peut résumer son arrivée avec Florentino Pérez qui est complètement amoureux de lui.
Ah mais Florentino Pérez, parce que c'est pas lui qui gère les transferts, Florentino Pérez, c'est le directeur général du club. Florentino Pérez ne s'est déplacé qu'une seule fois pour aller chercher un joueur. C'est Karim Benzema. Il a pris son jet privé, il est allé à l'aéroport de Lyon, il est allé à Bron et il est allé voir Karim chez ses parents. Parce qu'il avait, à l'époque, à Manchester United, qui faisait un forcing de folie, à l'époque, avec Sir Alex Ferguson pour engager Karim. Et Florentino Pérez a toujours pensé qu'il était le mélange parfait entre Zidane et Ronaldo Nazario. Voilà, donc c'était une obsession chez Florentino Pérez. Et je pense que il est arrivé très tôt. Ça a été dur pour lui parce que, moi, je me souviens à l'époque, Karim pleurait seul le soir dans sa chambre d'hôtel parce que il avait 22 ans, c'est la première fois qu'il vivait à l'étranger, c'est la première fois qu'il habitait loin de sa famille et qu'il était tout seul à Madrid quoi. On a beau être riche, on a beau être très connu, ben on a le droit d'avoir
Fred,
de sortir Fred. De solitude, oui.
Avec toi à Madrid, comment il a pu rester seul dans sa chambre d'hôtel? C'est ça que je me pose comme question, moi. Franchement, c'est quoi cet accueil? Bah, franchement, moi, j'ai jamais été tout seul dans ma chambre
Ronaldo,
d'hôtel.
Hein. Alors, c'est Ronaldo qui était son conseiller à l'époque. Et Ronaldo, au bout de quelques semaines, lui dit, et ça, c'est Karim, on avait rapidement parlé, lui dit, tu sais, tu travailles pas assez ici. Et au Real, il faut faire plus que ce que te demande l'entraîneur. Et donc, c'est Ronaldo qui l'a pris un peu sous son aile. On le sait pas assez, ça, hein. Mais Ronaldo, Cristiano Ronaldo, l'a pris sous son aile, l'a beaucoup aidé et l'a incité à arriver plus tôt au centre d'entraînement, à repartir plus tard, à faire des séances supplémentaires de musculation, etc. Alors, en fait, ce qui a été très compliqué, je termine là-dessus, c'est qu'il n'y a pas eu l'entraîneur idéal pour le recevoir. Parce que Pellegrini, c'était quelqu'un qui n'avait pas trop de légitimité et qui était surtout intéressé par sa propre intégration avant de s'occuper d'un jeune gars qui arrivait comme Benzema.
Est-ce que Zizou a eu une influence quelconque dans sa venue à Madrid?
Aucune. Non, c'était un choix depuis très très longtemps de Florentino Pérez.
Alors, c'est vrai que Benzema découvre à ce moment-là ce que vous avez découvert aussi à un moment, c'est l'exigence d'un grand club, le fait d'être isolé. Manu, c'est une étape que tous les joueurs n'arrivent pas à franchir.
Nouvelle culture, un nouveau pays, un nouveau vestiaire avec une nouvelle mentalité, le fait d'arriver, t'arrives sur la pointe des pieds, en plus c'est un jeune joueur, donc il n'a pas non plus un curriculum vitae derrière lui, donc...
Il arrive en même temps que Kaka et Cristiano Ronaldo.
En plus, ballon d'or Kaka, donc tu te dis que tu fais partie un petit peu des homonymes, non, des anonymes, pardon. Donc quelque part, t'arrives vraiment, t'essayes de te faire ta place, mais sans déranger qui que ce soit. Donc t'essayes surtout de prendre des informations, d'analyser l'environnement et d'essayer de t'impliquer au maximum le plus rapidement possible. Mais c'est vrai que le changement d'un pays à un autre, d'un point de vue culturel, ça chamboule tout. Il y a beaucoup de joueurs qui prennent pas ça en considération, en fait.
Comment c'était Fredo? Excuse-moi, Jean-Louis. Comment c'était Fredo quand il est arrivé, par exemple? C'est parce que moi, ça m'intéresse toujours. Il y a eu le truc avec Michael Jordan, qu'on a tous plus ou moins regardé. Quand il arrive que ce soit à la fac ou dans ses premiers pas en NBA lorsqu'il est drafté, c'est quoi les premières impressions des 15 premiers jours et 3 premières semaines de ses partenaires? Est-ce que de suite, ils sont éblouis, ils sont effarés? Moi, ça me rappelle, par exemple, Zizou, quand il arrive de Cannes à Bordeaux, pas grand monde le connaît, il arrive dans un échange avec deux autres joueurs, Eric Guérit et Jean-François Daniel, et puis les copains du club, ils me disent mais il vaut quoi ce petit, ils ont entendu parler vaguement, et au bout de 15 jours, 3 semaines, ils se disent celui-là il joue pas au foot comme nous. C'était quoi Benzema?
Excuse-moi, c'est pas Eric Guérit, c'est Ronaldo et Kaka, c'est pas Eric Guérit et Laurent Crossi. C'est beaucoup plus facile d'impressionner les mecs. Même Jordan, il est pas arrivé aux Lakers.
Il est très discret, même s'il y a quand même une présentation galactique dans le stade où il y a 40 000 personnes, moins que Cristiano et moins que Kaka, il y a quand même une présentation à Bernabéu importante. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez des images, 40 000 personnes dans le stade, ce qui n'est pas rien. Mais il se fait tout petit, c'est-à-dire qu'il faut voir qu'à l'époque...
Et à l'entraînement, ils ne sont pas impressionnés de suite les mecs?
Non, pas tout de suite.
Après, c'est quand même un vestiaire où il y a Ronaldo et Kaka qui arrivent. Ce que disait
Julien,
mais
des fois, quand tu vois un jeune...
Il y a plein de nouveaux joueurs.
Moi, j'ai le souvenir qu'on disait beaucoup de bien de Benzema, mais qu'il y avait surtout la tension sur les deux autres. Et en plus, Kaka ne marche pas bien au Real. Donc, c'est ça aussi le sujet de conversation, plus que les difficultés de Benzema. Enfin, en tout cas, moi, c'est le souvenir que j'ai.
Oui, bien sûr. Puis, j'insiste sur Pellegrini. Enfin, tu t'en souviendras, Jean-Louis. Pellegrini, il a pas vraiment beaucoup de personnalité. Tu sentais qu'on avait l'impression qu'il était là et qu'il dérangeait, quoi. Donc,
mais il a
pas
aussi
été aidé quand même.
Moi, je trouve qu'il a aidé dans l'intégration de Benzema, c'est qu'au début, moi, je me me souviens, il faisait énormément de passes à Raoul. Il s'était mis en tête, il faut absolument que je me mette Raoul dans la poche, donc je vais lui faire plein de passes, etc. Et là, l'avantage qu'il a eu quand même, c'est que Raoul, il était sur la pente descendante. Il a quitté le Real l'année d'après. Et la force du Real, elle s'est tournée vraiment vers Ronaldo, avec qui il a développé cette connexion impressionnante sur laquelle on va revenir sur les victoires du Real en Ligue des Champions, bien sûr, parce que Benzema y a participé. Et puis l'équipe de France, bien sûr, on refait la carrière ensemble de Karim Benzema dans Team Duga. Tout de suite.
RMC, 18h-20h.
Le meilleur de Team Duga.
Dans le meilleur de Team Duga, il y a le meilleur du blind test. C'est dans 10 minutes maintenant. On vous propose celui de lundi qui était une belle empoignade. Avant cela, on finit la carrière de Karim Benzema avec Gilbert Bribois, Julien Cazard, Fred Hermel, Emmanuel Petit et Christophe Dugarry. On est à peu près au début des années 2010, donc il est au Real. Et il enchaîne aussi des sélections en équipe de France. Gilbert, on t'a pas encore entendu sur le début de carrière de Benzema. En bleu, il impressionne quand même.
En bleu, il impressionne, mais moi, j'ai pas grand-chose à raconter sur Benzema le footballeur, parce que franchement, il n'y a rien à dire. C'est sans doute le meilleur numéro 9 français qu'on a eu depuis une éternité, actuellement le meilleur.
Mais pas toujours bien compris quand même. Hein. On lui a reproché son réalisme, justement, son manque de réalisme.
C'est peut-être aussi un peu sa faute, parce que là, pour l'instant, on fait la géographie de Benzema, à juste titre, sportivement, mais quand même, il y a tout ce qui se passe à côté.
Il y a les affaires, effectivement.
C'est pas un excellent communicant.
Il y a l'histoire de la sextape. Il y a l'histoire ici même, l'affaire Zaya. Il y a l'histoire ici même, il y a quelques années, quand il dit à Luis Fernandez, mon pays c'est l'Algérie. Enfin, il y a tout ça quand même. Et ça, malheureusement, ça compte aussi dans la carrière de Benzema.
Oui, bien sûr.
Ça lui a fait beaucoup plus de mal
sur le terrain, tout va bien. Toujours. Quasiment toujours.
Attends, tu te rappelles pas les polémiques? Il a fait 11 matchs sans marquer en bleu.
Ça peut arriver, ça, Jean-Louis.
Parce qu'il faut rajouter un truc, c'est que c'est un des mecs les plus fair-play qui soit. Il a jamais pris de carton rouge dans sa vie.
Il est adoré dans les vestiaires.
Il y a jamais un coéquipier, effectivement, comme dit Fred, qui va te dire. Sur les trucs football, en fait, le mec, il est irréprochable.
Je suis pas d'accord avec toi.
Mais Gilbert.
Alors vas-y, Manu, Gilbert, pourquoi t'es pas d'accord?
Tu sais très bien que... Vas-y, Manu.
Vas-y, je t'en prie.
Mais tu sais très bien que s'il avait marqué un but qui qualifie la France en quart ou en demi-finale d'une Coupe du Monde, on aurait passé des trucs. C'est comme ça qu'on marche en France.
C'est ce que tu voulais dire, Manu, c'est ça?
Bah oui, parce que quand tu me dis, Gilbert, il y a rien à dire sur l'aspect sportif, je suis désolé. Tout est bien au Real Madrid. Même si tout n'a pas été un chemin clairsemé, quoi, tu vois. Mais l'équipe de France, ça reste quand même une tache noire dans son parcours. Donc, d'un point de vue sportif,
L'équipe de France, il ne va plus en équipe de France parce que c'est un choix du sélectionneur hors football.
Il a 88
fois. Je suis pas certain que tu aies raison. Encore une fois,
27 buts en 88 sélections.
Tu penses que Deschamps trouve qu'il est pas bon?
C'est pas ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire que l'équipe de France, il faut être décisif.
Pour être décisif, il faut jouer les matchs.
Il est aussi tombé dans une très mauvaise période avec l'équipe de France.
Je me rappelle, pendant un an, il ne marquait plus.
Voilà, c'est des fameux.
Il n'a pas été dans la meilleure génération possible avec l'équipe de France
mais même,
aussi.
Mais même, rappelez-vous, un fait marquant avec l'équipe de France.
Mais sportivement, il n'y a rien qui justifie.
À part l'Ukraine 2012.
Sportivement, il n'y a rien qui justifie qu'il soit pas en équipe de France.
Dans les phases finales, je suis désolé.
Dugas vient de dire un truc important.
Le fait qu'il soit performant avec le Real Madrid, on est tous d'accord pour dire qu'il n'y a rien à dire sur le Real Madrid. Il a envoyé balader toute la concurrence en permanence. Il a fait effrayer son chemin. Et pour rester aussi longtemps dans un club aussi incroyable, il faut avoir une énorme qualité. Et il l'a. On est tous d'accord pour dire ça. Mais sur l'équipe de France, je suis désolé. Pour moi, c'est un raté. Sur la plupart de sa carrière.
Oui, mais de quoi on se rend compte quand on regarde sa carrière, effectivement, et l'équipe de France, c'est qu'il a besoin d'être entouré. C'est qu'il a besoin de monde autour de lui. Il avait besoin de Ronaldo au Real.
Non,
et en équipe de France, il n'a pas trouvé ce joueur de complément.
Autant à Madrid, il est bien entouré et il est au service, justement, de certaines grandes stars. Autant en équipe de France, il a le costume de la star. C'est lui qui doit être le leader à ce niveau-là. Et rappelle-toi, tu l'as dit tout à l'heure, quand il est arrivé dans le vestiaire, il était jeune, il dit, moi, je suis la personne qui va vous piquer votre place. J'aurais aimé qu'il fasse preuve d'autant de personnalité.
Oui, en équipe de France, lui arracher le costume. Hein.
Tu le juges sur des qualités qu'il n'a pas, Manu. C'est un grand joueur, mais qui n'est pas forcément ce leader-là qui va être capable de faire jouer les autres. Tu le reproches de ne pas être un certain type de footballeur.
Non, pas du tout, Duc. Tu te trompes. Ce que je lui reproche, c'est d'avoir cette ambiguïté et ce paradoxe incroyable entre ses performances avec Madrid et ses performances en équipe de bleu.
Parce qu'il n'est pas entouré par
Paris. Mais attends, il a joué combien d'années en équipe de France? Il a quand même eu des joueurs de talent autour de lui en équipe de France. excuse-moi, il y a des, on peut pas mettre tous les joueurs de l'équipe de France pendant les deux ou trois générations à laquelle il a côtoyé.
Alors, de 2000, pas bon, tu quoi. Imagines de aujourd'hui avec Griezmann et Mbappé.
De 2007 à 2014, c'est pas dingue quand même, hein.
T'imagines l'attaque de l'équipe de France aujourd'hui s'il y avait Benzema,
Mbappé. C'est ce qu'on aurait tous voulu voir, ouais.
Bah, donc, parce qu'il faut.
T'imagines, on serait champion du monde.
Il a mûri quand même.
Si vous pensez que j'ai tort en disant que son rendement d'équipe de France est largement insuffisant et que vous pouvez me sortir des arguments comme quoi il était mal entouré.
On est d'accord.
Je suis pas d'accord avec vous.
Non, on dit juste que c'est peut-être un joueur qui a besoin de partenaires plus que d'autres, quoi.
Moi, je pense que le problème, il se situe pas sur le terrain et que l'ambiguïté qui en découlait au niveau de la communication, ce que t'as souligné, pour moi, il est là le vrai problème.
Et donc, ça n'enlève en rien la qualité de Benzema. Une nouvelle fois, sportivement, rien ne justifie qu'il n'y soit pas.
Le maillot de l'équipe de France n'a jamais été vraiment à sa pointure. Tu vois ce que je veux dire? Dans les deux sens.
Attends, mais ce que tu veux dire par rapport aux affaires, c'est qu'il n'avait pas envie de jouer avec l'équipe de France?
Non, je pense qu'il avait, mais à un moment donné, il y a un désamour qui s'est créé, qui a été amplifié par une mauvaise communication, par des médias aussi qui ont mis de l'huile sur le feu, par la sortie virulente de certaines personnes également, qui n'ont jamais souhaité mettre un terme à ces polémiques. Et puis, lui, connaissant la fierté et l'orgueil, la personnalité de Karim Benzema, je pense que lui, il a dû se dire, un peu comme Nico, comme Kanto à l'époque de l'équipe de France, il a dit, moi, allez tous vous faire, voilà, tu vois ce que je veux dire.
Donc, Jean-Louis, il y a aussi un truc, c'est que on n'en parle pas trop, mais c'est aussi le fait de savoir. Il y a des fois où il faut savoir aussi se séparer de certains amis, des vieux amis, des potes d'une certaine époque.
Ouais. Ou, tu vois pas,
par exemple, moi tous mes potes qui payaient pas l'ISF, à un moment donné, j'ai décidé de plus les voir. Il faut faire des choix. Parce qu'à un moment donné, ça devient des boulets.
C'est pour ça que tu ne réponds plus?
Par exemple.
Déjà, c'est pas cool pour la communication. Sur la communication de Benzema, moi qui connais quand même très bien, c'est-à-dire que. Dans toutes ces affaires, de tout ce qu'on voit dans sa mauvaise communication, et quand on le connaît, c'est pas la même personne.
On est d'accord, c'est comme Nico, c'est pareil.
Mais Nico, je l'ai connu, moi, à Anelka, à l'époque où ça allait mal avec le Real, où il était mis en dehors de l'équipe pendant un mois, etc. Enfin, ce sont des bons mecs. Sincèrement, enfin, Anelka, c'est un bon mec, Benzema, c'est un bon mec. Après, dans la com, ils se sont plantés d'une manière terrible. Mais moi, si je fais confiance, Florentino Pérez, par exemple, prenons le type, il est PDG d'une des plus grosses boîtes de construction de travaux publics au monde, il est président du plus grand club de l'histoire du foot, il adore Benzema. Ancelotti, qui est un mec bien, il adore Benzema. Zidane adore Benzema. Tous les entraîneurs, finalement,
Deschamps n'adore pas Benzema.
Non,
si, il a adoré. Il y a un truc. Il a adoré. Bizarre, si, si, il a adoré. Il a protégé. Il a adoré. Il a adoré.
Mais attends, Fred,
oui, mais il a eu une interview catastrophique dans Marca.
Non, mais il l'a adoré, mais il savait aussi qu'il pouvait gagner sans lui. Sinon, Deschamps l'aurait pris. Si dans sa tête, pour gagner, il fallait Benzema, il se serait débrouillé, il l'aurait pris.
Peut-être.
Oui, il savait qu'on pouvait gagner sans.
Fred, est-ce que tu crois que si Benzema,
il avait 4 ans, ça.
Et encore, je suis même pas sûr que c'est bon. Tu sais, si Florentino Pérez, Benzema avait liké dès qu'un mec dit du mal de Florentino Pérez sur Internet, sur Twitter, s'il avait liké à chaque fois,
ça c'est sur Giroud.
Je te parlais sur Didier Deschamps.
Sur Giroud aussi, il a liké des trucs anti-Giroud.
Giroud, on s'en fout. Deschamps, c'est ton sélectionneur. Like pas les mecs qui se foutent de la gueule de Deschamps.
L'erreur suprême. C'est une interview dans Marca juste avant l'Euro.
La partie raciste de la France.
Voilà. Et ça, c'est la une. Et moi, je me souviens, j'étais dans un programme de télé à l'époque en Espagne. Je vois ça, on me dit alors tu vas défendre Benzema. Je dis mais comment veux-tu que je défende Benzema là-dessus? C'est une erreur monumentale, parce qu'il serait champion du monde aujourd'hui.
Et parce ça, qu'il se fait chauffer sur Twitter par des mecs qui le soutiennent de la mauvaise manière.
Exactement.
Fred,
exactement.
Est-ce que tu penses que son agent historique a eu une bonne ou une mauvaise influence au final sur lui?
Écoute, je vais pas juger, moi je vais juger ce que m'a dit Florentino Pérez. Florentino Pérez aime beaucoup Jaziri. Florentino Pérez m'a dit, parce qu'à un moment Karim, quand Mourinho le traitait de chat, etc., à un moment il a voulu partir. Et son père et son agent lui ont dit, ton rêve c'était de jouer au Real, eh ben bats-toi et sois là. Et moi Florentino Pérez m'a dit un jour en privé, si Karim Benzema est encore aujourd'hui au Real Madrid, c'est grâce à son père et à son agent.
Oui, en fait la com et le sportif c'est pas la même chose.
Donc peut-être que son agent a très bien géré le sportif, voilà. Et pas forcément bien géré la com.
Voilà, je pense que c'est le bon résumé.
C'est possible, mais le Marca c'est la plus grosse erreur. Il n'est pas en équipe de France à cause de ça. Il n'a pas fait le mondial à cause de ça. Et puis aussi par le fait que Didier Deschamps, quand même, il annonce à Karim Benzema qu'il ne joue pas l'Euro par téléphone. C'est pas loin Madrid.
Sans aller le voir, ouais.
Ouais, c'est-à-dire que moi je sais, au sein du vestiaire du Real Madrid.
Déjà qu'il l'a appelé, c'est bien.
Il y a des gens ont dit au sein du vestiaire
que c'était incroyable qu'on puisse se priver d'un tel joueur sans au moins venir le voir 5 minutes et lui dire face à face. Mmh. Et ça, je pense que Karim, il a beaucoup, moi je peux vous le dire, il a beaucoup souffert de ne pas pouvoir jouer l'Euro dans son pays.
Qu'est-ce que tu penses du gars?
Non, je plaisante, c'est mon combat que j'ai mal exprimé, oui, certainement, en m'énervant, mais c'est mon combat. C'est ce que moi aussi j'aurais adoré. Et, j'aurais, et voilà, et c'est comme ça que tu règles les problèmes entre quatre yeux et entre hommes, pas à travers des crises de colite. Non, mais voilà, au bout d'un moment, c'est bon. Ouais.
Allez, Nassim nous rejoint au 32-16. Salut Nassim.
Oui.
Salut poulet, bienvenue.
Salut
Nassim.
Alors, merci.
Qu'est-ce que tu retiens de la carrière de Benzema, toi? Le passage au Real, la fin d'histoire compliquée avec l'équipe de France.
Alors, je suis tout à fait d'accord sur plein de choses qui ont été dites. Je pense qu'il y a eu un problème de gestion des relations de Karim, je pense, parce que je suis Lyon, Karim, on l'a déjà vu passer, voilà, c'est un quartier difficile. Je pense qu'au bout d'un moment, quand tu atteins un certain niveau d'exigence footballistique, il faut que tu te dégages de certaines personnes qui peuvent être nuisibles.
Ouais, mais t'as le droit d'être fidèle à tes amis d'enfance.
Oui,
je te promets.
Mais je suis d'accord avec toi, mais il faut.
Tu peux les tirer vers le haut plutôt qu'ils t'amènent vers le bas.
Ils comprennent, ouais, mais il faut que les amis d'enfance aussi comprennent que l'image c'est important et qu'il y a des choses qu'ils peuvent pas faire. Moi, c'est mon avis. Après, irréfutablement, c'est un des plus grands joueurs français, vu ce qu'il a fait en Champions League et juste vu ce qu'il a fait au Real Madrid. C'est un peu nous ce qu'il faisait à Lyon, il nous a fait rêver, il a fait des trucs, mais il y avait un match contre Lorient, je crois, où il part sur le côté gauche, où il fait une talonnade petit pont, il se retourne et il part but. Il nous a fait vivre des moments qui sont inoubliables. Et par contre, en équipe de France, je pense que au-delà de la communication, il n'est pas tombé aussi au bon moment. Je pense équipe de France 2012, ils se font éliminer par l'Allemagne, c'est pas n'importe qui.
2014. Oui.
2014, pardon. Oui, ils sont éliminés par l'Allemagne, mais Grisou est encore à la Sociedad, Pogba est pas le joueur. Enfin, je pense que s'il avait une équipe, enfin, il n'était pas si leader pour qu'on joue pour lui, mais si l'équipe avait joué pour lui, je pense qu'il aurait pu être beaucoup plus performant. On a parlé de Grisou avant. Grisou, la dernière Coupe du Monde, les gars, il met 4 buts dont 2 pénaltys. Hein. C'est pas non plus... mais ça n'empêche que... Bah...
Ouais, mais il te qualifie contre l'Uruguay sur un but, tu vois. Mais il a pas fait Benzema.
Ils se ressemblent un peu, Grisou et Benzema, dans la façon de jouer. Hein.
Ah oui,
ils ont... Ah, je trouve, d'accord. Moi, je trouve qu'ils ont une qualité à pouvoir jouer à droite, à gauche, milieu de terrain, faire jouer les autres, être des finisseurs. Je trouve qu'ils se ressemblent, moi.
Comprendre ce que demande le jeu.
Ouais, exactement, aussi.
Oui,
aussi.
Se mettre au service du jeu, c'est ce que dit Benzema,
ouais.
Nassim, Benzema, merci en tout cas d'être venu au 32-16. Oui, Fred.
Quand il se décrit lui-même, il dit « Je suis un numéro 9 avec une âme de numéro 10 ». C'est beau, quand même.
Oui, d'ailleurs, quand on voit le match de ce week-end...
Ce Fredo, il a prévu de chialer comme ça.
Le match de ce week-end contre Eibar, où il est impliqué sur tous les buts, il a clairement des gestes de numéro 10 là, hein, à distribuer le jeu comme ça.
Ah oui, non, mais c'est vrai que c'était un délice de le voir jouer hier soir. Il va avoir 33 ans en décembre, mais il est dans une forme physique étincelante et l'entente avec Hazard, elle est superbe. Franchement, si Hazard physiquement ça tient le coup, je pense qu'on va voir des choses extraordinaires en Real entre les deux.
Voilà pour la carrière de Karim Benzema. On prend plaisir comme ça à se remémorer les carrières de certains internationaux français, même si l'histoire d'amour s'est mal terminée entre Benzema et les Bleus. On revient dans une seconde avec le blind test.
RMC, 18h-20h.
Le meilleur de Tim Duga.
Le meilleur de Tim Duga vous accompagne en ce samedi soir jusqu'à 20h avant le début de Paris-Ici la sortie. C'est le blind test. On y va. Équipe champion du monde 98, Christophe Dugarry, Emmanuel Petit.
Équipe, toujours là, attention.
Équipe qui se
couche. On est nul.
Ouais, mais bon, vous allez peut-être avoir un bon auditeur.
Optimiste,
et puis en face, l'équipe des couche-tards, Bribois, Cazard, Hermel. C'est lié,
pas seul.
C'est lié au fait qu'ils fassent l'after.
L'équipe a vaincu. Hein.
Oui.
Ah
oui,
ah bah, moi et Julien, je suis avec.
Ah, bon. Ouais, c'est vrai.
Je ne vais pas vous porter la poisse.
L'année passée au bar, c'est normal. Hein.
Avec vous, Karim, qui est là au 32-16. Salut, Karim.
Salut tout le monde.
Salut.
Tu veux faire équipe avec Duga et Manu ou avec les autres?
Allez, je vais avec eux, il n'y a pas de problème.
Très bien.
Bonne chance, Karim.
Opportuniste.
Et Monde est là. Salut, Monde.
Salut.
Alors, toi, salut, tu es avec les
avec les meilleurs.
Ouais, bah, si tu
veux. Merci. Merci pour eux.
Ou les moins mauvais, c'est comme
ça. Cazard, Bribois, Hermel. On y va. Première chanson. On cherche l'interprète. Et puis derrière, question foot.
ACDC.
Non.
Fiscalisé au
Chicago. Non.
Genesis.
Ah oui, Genesis, Julien.
Ah
oui.
Avec quel Genesis?
Ouais.
Bien joué, Julien.
1-0.
Ah bah, c'est le mec qui fait l'entrée des joueurs au Parc des Princes depuis 25 ans. Donc,
Voilà pourquoi.
Alors. C'est pour ça que je connaissais pas.
le titre I Can Dance, sorti en 91. Qui termine meilleur buteur de Déan en 91?
Papin, si c'est
Papin. Effectivement.
Bien joué, Julien.
Ça va vite. Djibril Cissé en 91, du gars.
Je sais pas.
Il était jeune.
Je sais
pas. Très très jeune.
Djibril Cissé, on sait pas quel âge il a. Il va encore jouer au foot, donc.
C'est vrai. T'as raison. L'important, c'est d'essayer.
Voilà.
On y va.
Ah,
Kill Bill.
Non.
Manu.
Chibari.
Zanti Sinatra. Voilà.
Ah oui.
J'adore ce
film. Bang bang.
Manu, il me fixe. Sans rien dire.
Quand t'as le truc là, tiens. Il a quel âge l'auditeur qui a trouvé Nancy Sinatra? Parce que c'est quand même pas jeune.
62.
38, Karim.
Ah bah dis donc.
Eh oui.
Alors. Kill Bill, c'était bon aussi, Jean-Louis.
Bien, oui, ça aurait pu passer, bien sûr.
Mais je l'ai dit.
Oui, mais c'est pas ça, on cherche.
Mais c'est pas une chanteuse, Kill Bill.
Oui, voilà.
Kill Bill, c'est pas une chanteuse.
Et oh, alors, ça suffit. Hein.
La question foot sur Nancy Sinatra. Question sur Nancy, sur la SNL, bien sûr.
Platini.
Alessandra Tana.
Une victoire en Coupe de la Ligue en quelle année pour Nancy?
2002, 2001, 2005 contre Nice. 2006 contre Nice.
Oui, 2006, Gilbert.
Ensemble ou quoi?
Comment?
T'as connaissance,
ça,
c'est
la question générale,
mon vieux.
Je me rappelle de Nice-Nancy, très belle finale.
Avec Kim.
Moi, je l'ai pas vu.
Exactement. Alors, nouvelle chanson, là, je vous demande le titre. D'accord?
You Never Walk Alone.
Eh oui, Gilbert, You Never Walk Alone.
Tu joues en Angleterre, toi, Manu?
Non, j'ai joué au Celtic.
Alors, je sais qu'à Madrid, c'est You Never Sleep Alone. C'est ce que m'a dit Fred.
Vous êtes un peu mou, effectivement.
Oh, You Never Fuck Alone.
On la chante dans le stade après les matchs.
Oui, après les matchs.
Fred m'avait dit qu'il voulait participer au blind test. C'est dommage.
Ouais, mais c'est des trucs trop bonheurs.
C'est une réussite.
Ouais. Encore une belle variante.
Les 30 et tout ça, tu vois.
Alors, est-ce que vous pouvez me donner un club autre que
le Celtic?
Le Celtic et Liverpool.
Dortmund,
Gilbert.
Exactement. Et qui a été le premier?
Manu. Bravo, Manu.
Non, c'est Celtic. Vas-y, Celtic. Non.
Je sais pas.
Très bien, merci.
Manu, on n'a pas la réponse.
Quoi, je trouve c'est insupportable que tous les clubs en prennent ça.
Pourquoi?
Bah, créer votre propre identité. Qu'est-ce que c'est que ça de copier?
Ouais, sauf si c'est Strasbourg. Si c'est Strasbourg qui le fait, ça te poserait pas de problème.
Non, pas du tout. Moi, j'irai voir le mec de la Sodo et j'irai lui débrancher.
Et il t'écouterait.
Les corons, c'est Calence.
Exactement.
Allez, je te rassure, personne vous le piquera celui-là.
5-1, c'est un peu gênant, mais on y va. Allez, nouvelle chanson.
Cœur de pirate.
Ah oui, c'est ça.
Ah oui. C'est presque limite gênant. C'est limite gênant. Hein.
Pourquoi?
Je sais pas quoi dire.
C'est gênant, je suis aussi fort. Je peux comprendre.
Ça va aller vite. Qui a dit ce soir c'était 11 hommes contre 11 enfants?
Evra,
Gilbert.
On est là, Gilbert. On est là, Gilbert.
La chanson, c'était comme des enfants.
C'est quoi le rapport avec pirate?
De quoi?
C'est quoi le rapport avec la chanson?
La chanson s'appelle comme des enfants, je viens de vous le dire. Donc vous m'écoutez et vous arrêtez de vous plaindre.
Le rapport avec pirate, c'est qu'il
est infernal.
Le rapport avec pirate, c'est que c'est un capitaine qui a fait une mutinerie.
Aussi, en plus. En plus, voilà.
Je n'ai pas compris la règle, moi.
Bah, il y a une chanson, on cherche.
C'est tous les 28 jours.
On peut jouer là.
On y va, nouvelle chanson.
Avicii.
Oui, ouais, Avicii, gars, oui.
Ce
qu'il est bon en musique celui-là.
Dès que c'est pas du foot, il est là,
6,
il est en
3.
Respect.
Avicii. Tube sorti en 2013. Qui est élu meilleur espoir de Ligue 1 en 2013?
Mbappé.
Non.
Marvin Martin.
Non. 2013.
Ben Rafa.
Un joueur de l'OM.
Sako, Hazard.
Un joueur de Marseille. Oui, Fekir de l'OM, bien sûr.
Nasri.
De Marseille.
Nasri.
Gilbert.
J'allais sortir un paquet.
C'était bien tenté.
Il est là.
Non mais Nasri espoir en 2013 évidemment.
Et tu sais quoi, oui. Demande plutôt qui était Victor de la musique à cette époque là, ouais. Parce que sinon Dugas peut pas jouer, hein.
Allez, dernière chanson, on y va.
Jean Dassin.
Non.
Delpech.
Oui, Delpech. On est Fred. Bravo. Ouf. Mais c'est moi qui l'a donné avant. Et la question qui va avec. Bon, on cherche juste un chasseur de but anglais passé par Southampton, Blackburn ou encore Newcastle.
Le Tissier.
Exactement. C'est Karim qui l'a donné.
Quoi?
8-4, Karim.
Non, tu t'appelles pas Karim.
Ça me fait penser à la blague. Est-ce que tu sais quel fruit déteste les poissons?
Non.
La pêche.
Excellent, Manu. On va terminer.
Excusez-moi. On peut réécouter la blague de Manu, s'il vous plaît?
Non, quand même. Voilà donc pour ce blind test. On en fera de nouveau la semaine prochaine entre 18h et 20h. En direct sur RMC. Demain, le meilleur de Team Dugas est de retour avec France-Allemagne 82 passé au crible. Dans une seconde, c'est par ici la sortie sur RMC.
RMC, 18h-20h, le meilleur de Team Dugas.